C'est lancé. Alors, bienvenue à cette séance à huis clos et par vidéoconférence de ce conseil. Alors, là, vous avez reçu le projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Tu peux-tu mettre la fiche, Dominique? Ah, ici, c'est bon. Je l'avais à quelque part. C'est beau. Alors, y a-tu des points à rajouter? Sinon, ça prendrait une proposition pour l'ordre du jour.
Luc propose.
Yvon appuie.
Éric et Yvon. Et Luc.
Luc.
Luc et Yvon.
Oui.
C'est beau. On est maintenant au procès verbal de la dernière rencontre. Alors, questions, commentaires, modifications, sinon adoption.
Martin Gilles propose.
Sébastien.
Sébastien seconde. On est rendu au compte et recettes. Même chose. Questions, commentaires, sinon adoption.
C'est beau, Clément. Gilles Breton.
Gilles. Oui, nommez-vous, c'est plus facile. Gilles.
Okay.
Martin Lacasse.
Martin Lacasse. Or, on est rendu à rencontre Marie-Ève, alors qui va se joindre à nous. Alors, Marie-Ève, je te
oui,
laisse.
Oui, je suis arrivée.
Tu es arrivée?
Oui.
On te voit-tu à quelque part? Oui, dans le coin en bas. C'est toi, Marie-Ève. Alors, on s'est, pour ceux qui ont participé à l'événement la semaine dernière, ça a été très intéressant. Donc, Marie-Ève a sûrement nous ramener des éléments où on en est rendu avec le projet. Donc, je te laisse aller, Marie-Ève.
Super, merci beaucoup. Est-ce que je peux faire un partage d'écran?
Oui, vas-y, Marie-Ève.
Oui, c'est bon. OK, parfait. En fait, ben, d'abord, bonsoir tout le monde. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir pour vous faire un suivi par rapport à la démarche Agir collectivement dans Bellechasse. Donc, effectivement, on a eu le rendez-vous qui avait pour objectif de présenter le plan d'action qui est le fruit du travail de cette année. Là, on l'a eu la semaine dernière là, par Zoom également. Là, une soixantaine de personnes, ça a été super intéressant, ça s'est bien déroulé. Donc, en fait, l'objectif aujourd'hui, je veux vraiment revenir brièvement là, sur un bilan de cette première année-là. Bien sûr, peut-être vous présenter aussi brièvement quelques points clés du plan d'action tel que je les ai présentés la semaine dernière. Puis aussi quand même concentrer une partie de, ce bilan-là là, par rapport au projet des activités parascolaires. Donc, en fait, c'est ça. Là, c'est très synthétique. Là. J'ai tenté de les deux documents que je vous ai transmis, c'était très synthétique. Si par la suite, vous avez besoin de documents supplémentaires, d'informations supplémentaires, il n'y aura aucun problème. Là, je pourrais vous les fournir. Entendez. Donc, c'est ça, je vous ai partagé mon écran. Donc, d'abord, je vais commencer juste avec un retour sur les principaux objectifs, en fait, les objectifs qu'on s'était donnés pour cette année-ci en lien avec la démarche Agir collectivement dans Bellechasse. Donc, la première phase du projet qu'on a appelée la phase dialogue, phase de démarrage, donc qui consistait vraiment là, à venir préciser notre vision, consolider un peu notre collaboration, notre concertation, etc. Donc, en fait, les réalisations effectives jusqu'à date, certainement par rapport au fait de créer des espaces de dialogue puis activer les réseaux, c'est certain qu'on a un point important, ça a été d'élargir le réseau de partenaires. Donc, tout au long de l'année, il y a eu des contacts avec différents partenaires. Ici, je mentionne particulièrement justement l'adhésion de toutes les municipalités, donc il y a des 20 municipalités de Bellechasse là, pour un soutien officiel à la démarche, donc qui a été un élément cette année d'acquis. Par la suite, bien sûr, établir des réseaux de communication, donc ça a été fait, là, certainement, le comité de coordination, le comité parascolaire, le comité exécutif, donc tous les comités en lien avec la démarche ont été démarrés. Ça a permis vraiment là, d'amorcer des échanges puis une communication plus intense entre les partenaires. Par la suite, sur le fait de faire connaître la démarche ACB, donc on a ACB pour agir collectivement dans Bellechasse, on a pris le temps d'élaborer les outils, les supports pour vulgariser la démarche, faire connaître la démarche. Il y a eu de nombreuses présentations tout au long de l'année dans diverses occasions, dans certains cas, je suis allée dans les municipalités aussi, au certains conseils des municipalités pour faire des présentations. Ça a été le cas aussi dans les écoles, pour certaines organisations, etc. Par la suite, il y a eu la création d'un comité de communication. Donc, on a conçu un plan de communication qu'on a mis en œuvre. Donc, entre autres, là, l'utilisation des médias sociaux qui a été développée, les activités de promotion aussi auprès des jeunes, dans lesquelles on a vraiment inclus les jeunes pour faire la promotion de la démarche et des activités. Puis, un site Internet qui a été dévoilé aussi la semaine dernière. C'est ça, là, le document que je vous avais transmis, je n'avais pas ajouté ces exemples-là, mais là, je vous les montre aujourd'hui quelques exemples là, pour être un petit peu plus concret. Par la suite, consolider la concertation intersectorielle et développer la vision partagée. Donc, ça consistait, bien sûr, là, à consulter les partenaires, les jeunes, tout ça pour co-construire le plan d'action qu'on a produit et qu'on vous a présenté dernièrement. On a eu 3 rendez-vous ACB cette année. On compte en tenir 2 par année pour les prochaines années. Donc, cette année, c'était exceptionnel en raison de l'élaboration du plan d'action. Donc, pour vous donner une idée, le rendez-vous 1 en octobre, on a eu 120 participants. Le rendez-vous en février, on a eu 105 participants. Puis le rendez-vous Zoom la semaine passée, 66 participants. Donc, une bonne mobilisation pour tous les événements. Par la suite, les activités de consultation dans les écoles, en fait, auprès des jeunes, il y a eu beaucoup de travail fait à ce niveau-là, plusieurs focus groups. À l'automne, puis au début de l'hiver aussi, des ateliers pour approfondir les enjeux qu'on avait priorisés tout le monde ensemble. Par la suite, bien sûr, des représentations aux différentes tables de concertation sur le territoire. Par la suite, ACB, on a précisé la gouvernance. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, les comités, les instances là, ont pris forme, puis se sont davantage précisés. On est venu définir les enjeux prioritaires, puis, tel que mentionné, le plan d'action a été présenté la semaine dernière. Donc, par le fait même, on a développé les outils puis expérimenté tout le fonctionnement au courant de l'année. Puis, un point important justement pour expérimenter ce fonctionnement-là, ça a été de mettre en œuvre le projet des activités parascolaires. Donc, je vais revenir plus en détail sur ce projet-là, un bilan plus en détail. Voilà. Puis, finalement, on avait aussi pour objectif là, pour cette année de convenir collectivement de notre modèle d'évaluation. Donc, ce qui a été fait, on a procédé à l'embauche d'un consultant de Thulé Évaluation. Donc, on finalise l'élaboration du plan là, d'évaluation pour les prochaines années, dont un volet principal est consacré à l'évaluation des résultats transitoires du processus de collaboration, donc l'évaluation du processus de collaboration en tant que tel, puis un volet aussi dédié à l'évaluation de projets clés ciblés dans le plan d'action. Finalement, seulement un petit mot là, sur le fait que dans le contexte de pandémie, ça a eu un impact sur le projet des activités parascolaires. On a tenté d'adapter un peu l'offre. On a offert quelques activités en ligne quelques-unes sont terminées, d'autres se terminent bientôt. Un des points clés du plan d'action qui est à venir, ça va être de créer une instance jeunesse. Je vous en parlerai un petit peu plus. Mais on a commencé une mobilisation des jeunes. En fait, là, les jeunes qui étaient impliqués dans les rendez-vous, dans la démarche, qui étaient présents à tous les rendez-vous, là, qui était un point essentiel aussi de ces rendez-vous-là. On a formé un petit groupe avec eux, puis on est en train de travailler sur différents projets de mobilisation des jeunes avec eux, etc. Par rapport à la démarche en tant que telle, les prospectives puis les défis à venir, donc certainement la mise en œuvre du plan d'action en s'adaptant toutefois au contexte là, à court moyen terme actuel, le maintien de la mobilisation, donc par la concertation et tout ça, ça va être important bien sûr. Par la suite, l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication, donc un autre point important aussi du plan d'action sera de se concentrer sur peut-être un plan de communication concerté pour définir comment on veut justement se doter de stratégies pour améliorer la coordination, la communication entre les partenaires. Puis aussi un élément quand même de consulter davantage les acteurs 0-12 ans parce qu'on a beaucoup impliqué les jeunes adolescents cette année, mais force est de constater que les actions pour les 0-12 ans ont moins émergé. Voilà. Puis finalement aussi l'enjeu de la santé mentale dans nos 3 enjeux que je peux vous rappeler, là, l'implication des jeunes dans la communauté, la santé mentale et le bien-être des jeunes et des familles, le transport et la mobilité. Dans ces 3 enjeux-là, celui qu'on a identifié comme étant peut-être le moins avancé ou le plus à travailler sera celui de la santé mentale, donc identifier les pistes d'action pour cet enjeu-là éventuel. Donc, je vais tout de suite passer à un partage aussi de... Excusez-moi, j'ai plusieurs documents ouverts. OK. Un partage de mon écran pour vous présenter plus de détails un petit peu sur le projet des activités parascolaires parce que, en fait, c'est un projet, j'ai l'impression, là, qui vous intéressait là, d'emblée, puis surtout qu'on avait identifié que le financement, l'adhésion des municipalités, la contribution financière serait dédiée là, à ce projet-là des activités parascolaires, projet pilote pour la première année d'agir collectivement en Bellechasse. Pour consolider notre collaboration, tester l'applicabilité des principes directeurs, etc. Donc, juste pour rappeler les objectifs généraux de ce projet-là, qui était en fait là, de se regrouper pour atteindre une masse critique pour pouvoir offrir différentes activités qui intéressent les jeunes. Puis, bien sûr, aussi favoriser une complémentarité entre l'offre en loisirs municipal puis l'offre d'activités parascolaires pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Donc, pour vous venir avec quelques données quantitatives. Donc, à la session d'automne, on a offert 7 activités. On avait l'objectif d'en offrir au moins un minimum de 6 activités par session. Donc, 7 activités ont été offertes. Il y a eu 111 participants aux activités. Les activités se déroulaient, je peux descendre tout de suite pour vous montrer, là, qui se déroulaient à l'école secondaire de Saint-Anselme, école secondaire de Saint-Charles, à l'école secondaire de Saint-Damien, au centre de formation agricole de Saint-Anselme, au centre socioculturel de Saint-Gervais, à la maison de la culture, puis au boisé des Marianais, ça c'était à l'hiver par contre, là, mais donc les lieux où se déroulaient les activités cette année. À la session d'hiver, on a offert 6 activités. Donc la session d'hiver, en fait, on a connu une baisse des inscriptions, donc il y a eu 12 participants de moins qu'à la session d'automne. Bon, possiblement que ça s'explique. Là, en général, on dit que dans le milieu municipal aussi, c'est comme ça qu'à l'hiver, il y a généralement moins d'inscriptions. Bref, ce sera quelque chose à travailler. Mais ça fait en sorte qu'on n'a pas offert toutes les activités qu'on souhaitait donner puis qu'on avait proposées, entre autres des activités qui devaient correspondre davantage à l'objectif qu'on s'était fixé d'offrir des activités qualifiantes permettant de répondre aux besoins du milieu municipal. Donc, ici, je vous donne l'exemple là, de l'activité d'étoile de bronze, initiation au sauvetage piscine, puis d'habitage soccer qu'on a souhaité offrir. Mais pour les deux activités, au total, il y a eu 4 inscriptions. Donc, ça a été impossible là, de donner les activités. Voilà, là, j'y vais un petit peu de manière décousue. Là. Je remonte. Par la suite, pour la session d'hiver, comme je vous disais, bon, certainement, on a offert seulement la moitié des activités qu'on était supposé offrir. On a quand même économisé des sous par rapport au transport parce qu'on n'a pas payé pour le transport qui finalement n'a pas été offert. Même principe aussi pour les activités. Donc, en fait, ça a coûté moins de sous que ce que c'était supposé. Ces sous-là, on a décidé d'en prendre une partie pour offrir quelques activités en ligne. Plus bas, j'ai les détails des activités en tant que telles. Mais avant, je voulais terminer sur le fait, bon, par rapport aux objectifs de favoriser le développement du sentiment d'appartenance chez les jeunes, favoriser la participation des jeunes de tous les horizons. Donc, ça, c'était l'idée d'offrir un service de transport collectif dont je vous avais parlé aussi au début de l'année, qui a été expérimenté. Donc, en fait, à la session d'automne, le transport consistait à déplacer les élèves des écoles secondaires jusqu'à un point de transition où les élèves se déplaçaient, changeaient d'autobus pour se rendre au lieu de leurs activités. Donc, ils étaient redirigés vers leurs activités. Puis, le retour à la maison se déroulait avec un point de chute au lieu là, de ces écoles secondaires, des 3 écoles secondaires. On a tout de suite tenté de bonifier ça à l'hiver, donc en offrant vraiment un point de chute, là, une desserte là, plus globale, en fait, un point de chute dans toutes les municipalités de Bellechasse. Puis aussi en offrant quand même un transport aux jeunes Bellechassois scolarisés à Lévis. Pour également tenter d'inclure des jeunes de la municipalité de Saint-Henri, entre autres, mais il y a aussi d'autres jeunes scolarisés, Bellechassois scolarisés à Lévis, il y en avait de Saint-Anselme, de d'autres municipalités là, qui se sont inscrits. Donc, ça a fonctionné. Il y a eu quelques inscriptions en ce sens-là. Par contre, certainement, cet aspect-là du transport sera... on souhaite continuer d'évaluer disons, la nécessité de tout ça, mais pour la session d'automne, on n'est pas certain de rien, donc ce sera à voir. Donc voilà, je vous avais parlé des lieux où on les a offerts. Puis c'est ça, donc ça m'amène à vous dire que, en fait, pour l'année prochaine, bon, certainement, il va y avoir un travail à faire au niveau de l'adaptation de ce projet-là pour continuer à répondre aux besoins des jeunes. Un besoin qui se dessine là, beaucoup, c'est le besoin de relations entre eux. Donc, c'est très difficile pour eux ces temps-ci. Puis, certainement, on souhaite aussi quand même arrimer tout ça pour pouvoir continuer à répondre aux besoins du milieu municipal. Les écoles aussi, ce sera une rentrée scolaire particulière. Donc, en fait, de se consulter tout le monde pour voir comment on peut ajuster ça le mieux possible pour tous. Voilà. Donc, par la suite, je vous avais mentionné que cet aspect-là des activités qualifiantes, donc formation à donner aux jeunes, entre autres, c'est ça, natation, sauvetage pour différents sports et tout ça, on souhaite travailler là-dessus. En fait, aussi, cette année, il y a quand même un partenariat qui a été établi avec URLS Chaudière-Appalaches, avec qui on va offrir... j'ai vu la caméra bouger, je me demandais s'il y avait un problème. Tout est beau, vous m'entendez encore?
Oui.
OK, c'est bon. OK, parfait. Donc, en fait, avec l'URLS, on souhaite offrir là, l'année prochaine, on va voir comment on peut le faire, mais la formation d'AFA, donc pour les jeunes qui souhaitent être moniteurs de camp de jour. Puis, en fait, je pense que ce qui sera travaillé avec les municipalités, c'est beaucoup aussi la manière dont on devra mobiliser les jeunes, les stratégies de communication aussi qu'on devra utiliser pour inciter les jeunes à s'inscrire à ces formations-là. Parce que là, on a vu que malgré le fait qu'on en offrait quelques-unes, la réponse n'était pas là. Donc, ce sera ça aussi qui sera à réfléchir. Puis, voilà. Donc, pour plus de détails un peu par rapport aux activités, il y a un petit tableau ici. Dans le document que j'avais transmis, il y avait une petite coquille. Là. Ici, c'est en gris là, que je voulais indiquer. Donc, en fait, c'est ça, comme je vous disais, on avait offert une douzaine d'activités. On n'a pas pu toutes les donner. On était optimiste dans le nombre d'inscriptions qui n'a finalement pas été celui escompté. Donc, voilà. Puis ça, c'est plus de détails aussi sur les activités en ligne. Donc, pour ça, là, je vais conclure. Je vais conclure en vous présentant quelques grandes lignes du plan d'action. En fait, là, puis par la suite, si vous avez des questions, là, je vais laisser la parole. Mais en ce qui a trait au plan d'action, donc, je vous ai partagé tout à l'heure les trois enjeux qu'on a priorisé ensemble. Puis en fait, il y a également l'enjeu de la collaboration, donc qui est à ne pas oublier, en fait, de la collaboration intersectorielle, de la mobilisation qu'on a identifié comme étant là, vraiment l'enjeu transversal à tout ça. Donc, le cœur de la démarche Agir collectivement dans Bellechasse, c'est de développer notre coordination, la communication, entre autres, je le mentionnais tout à l'heure, va être un point clé là, du plan d'action, là, la communication pour pouvoir mieux collaborer, puis toujours là, optimiser l'accès aux services offerts aux jeunes et aux familles. Donc, par rapport à ce point-là, c'est ça, par rapport à cet enjeu-là, c'est l'élaboration puis la mise en œuvre d'un plan d'action, d'un plan de communication, pardon, communication concertée qui sera à travailler là, prochainement. Puis, par la suite, également aussi tout l'aspect de la coordination de la démarche, de l'évaluation reliée à tout ça pour mesurer les effets de notre collaboration intersectorielle sur, les actions puis la collectivité. Donc, en fait, je ne vais pas m'attarder vraiment dans tous les détails du plan d'action parce que il sera disponible sur le site Internet là, très, très prochainement, là, puis je vous tiendrai au courant, mais vous pourrez regarder plus en détail. Mais je voulais aussi quand même revenir juste brièvement aussi sur l'enjeu de l'implication des jeunes dans la communauté. En fait, où un point clé de cet enjeu-là sera de créer une instance jeunesse officielle. Donc, en fait, dans les rendez-vous ACB tout au long des consultations de cette année, il était souvent mention d'impliquer au maximum les jeunes dans les dossiers, dans les projets du territoire, autant locaux, territoriaux, etc., d'avoir des jeunes sur des comités. Donc, on a décidé qu'une manière possible de faire ça serait la création d'une instance jeunesse, donc 13 à 21 ans, qui agirait comme un comité aviseur, c'est ça, pour les dossiers territoriaux locaux en Bellechasse, puis une instance qui pourra également développer des projets vraiment pour répondre aux besoins des jeunes. Quoi de mieux que les jeunes eux-mêmes pour travailler là-dessus. Donc, ça, c'est un point clé. On veut aussi mettre beaucoup l'accent sur, par rapport aux communications, sur le fait que ce soit les jeunes qui deviennent ambassadeurs des projets pour les autres jeunes. Donc, vraiment favoriser, c'est ça, la mobilisation des jeunes par les jeunes, leur donner la place. Donc, en fait, ce qu'on souhaite au cœur de tout ça, c'est de donner davantage la parole aux jeunes puis de continuer en tant qu'organisation, parce qu'on l'a bien démontré cette année que c'était super intéressant de continuer en tant qu'organisation de Béchasse, d'écouter les jeunes puis de prendre en considération leur avis. C'est ça, dans ce qu'on fait. Voilà, par la suite, pour ce qui est de l'enjeu de la santé mentale, donc ce que je peux vous dire, ce qui se dégage un peu, c'est que c'est ça, on souhaite continuer le travail par rapport à cet enjeu-là, en prenant un angle surtout de sensibilisation face aux saines habitudes de vie. Donc, ce qu'on identifie, c'est il y a une hausse d'anxiété chez les jeunes en général, on souhaite agir ensemble sur les facteurs qui permettent une santé mentale florissante chez les jeunes. Donc, les saines habitudes de vie a été là, vraiment un point important à identifier. Puis finalement, l'enjeu du transport. Donc, certainement, le projet des activités parascolaires, le transport, c'est un élément important. Mais aussi, à ACB, on souhaite contribuer également là, à développer un projet qui irait dans le sens d'offrir un service de navette dans le cadre de quelques éléments là, importants là, en Bellechasse pour faciliter l'accès des jeunes puis des familles à ces événements-là importants en Bellechasse. Bien sûr, comme je le mentionnais dès le départ, le lien entre tout ça, là, c'est de travailler, de continuer à travailler sur la concertation, puis de faciliter notre collaboration de toutes les organisations des cinq secteurs impliqués dans la démarche. Donc, j'ai parlé beaucoup. Là, j'espère que j'ai été suffisamment bref. Si vous avez des questions.
Est-ce qu'il y a des questions?
Oui.
Oui.
Oui, bien, écoute, j'écoute tout ça, c'est beau, tout ça. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir, en tout cas, je ne sais pas si c'est possible d'accéder à ça, le groupe d'âge, le nombre de jeunes visés par les activités qui sont proposées? On voit les activités, je ne sais pas moi, on voit celle qui a favorisé l'adoption des saines habitudes. Il y a eu 101 participants. Mais ces 101 participants-là étaient de quel groupe d'âge? Parce que je vais t'avouer franchement que c'est pas facile de convaincre le conseil municipal de verser des sous quand on n'a pas de référence de cette nature-là pour leur dire, ben écoute, ben, ça visait tant de personnes, il y en a tant qu'à participer, c'est vraiment rentable pour la municipalité d'investir pour ces jeunes-là. C'est des données comme celles-là, moi, que j'aurais besoin peut-être.
OK.
Pour donc, les gens les aujourd'hui, là, c'est ultérieurement.
C'est beau. Autre question?
Moi, j'aurais une intervention à faire pour faire du pouce sur ce qu'ils vont bien nous demander. Je pense qu'une façon de convaincre ton monde, Yvon, là, moi, j'ai assisté à tous les rendez-vous depuis le début. Je pense que, autant toi, peut-être comme maire ou tes conseillers, la meilleure façon d'être convaincu du bien fondé de ce projet-là, c'est de participer aux journées.
Exactement, oui.
Au rendez-vous. Et là, vous avez l'effet tangible, l'effet concret. Puis, à ce moment-là, après ça, ça va aller tout seul. Là. Je pense que c'est sûr que d'avoir une présentation comme ça, théorique, c'est difficile de voir la réelle portée par des écrits, mais en étant parce que ces rendez-vous-là, les jeunes sont impliqués, ils sont présents. Et c'est la beauté du projet que moi, je vous recommande vraiment d'avoir un ou deux délégués de votre conseil pour qu'ils puissent contaminer le reste de la gang.
Ça serait intéressant. Mais tu comprendras que dans une municipalité sous-titre comme la nôtre, on a à peu près 35 étudiants au primaire. On a peut-être 5 ou 6 personnes au secondaire d'aller chercher, de faire convaincre le conseil de verser des sous. C'est pas toujours facile. Mm-hmm. Et moi, j'ai essayé de participer le plus possible. La dernière, j'ai dû l'annuler parce que j'ai eu je pouvais pas y assister. Mm-hmm. Mais j'attends de convaincre mes conseillers à y participer. Puis, c'est pas toujours facile.
Non, je comprends. Mais je te suggérais statut suggestif, là.
Oh, oui, exactement.
Donc, on a pris les recommandations et Marie-Ève, je suis sûr que tu as noté ça.
Oui.
Donc, la présentation de la petite rencontre qu'on a eue vidéo la semaine dernière, elle va être mise sur notre site web? Les résultats, y a-t-il eu un enregistrement qui a été fait?
Oui, ça a été enregistré. Puis, ben, si vous jugez nécessaire, en fait, peut-être que je pourrais partager la vidéo à vous, là, les membres du conseil de la MRC.
Oui,
là,
pour que ce serait intéressant. Fait que ouais. Il y a plus de détails que ce que tu nous as donné ce soir. Fait que c'est ceux qui veulent avoir plus de renseignements, puis de voir, parce que c'était une des questions qu'on s'est posées au comité administratif, que c'était important de faire le point sur ce projet-là, parce qu'il y a quand même du financement municipal là-dedans. Et moi, j'ai été en tout cas impressionné par le travail qui a été effectué. Et il y a quand même des résultats à obtenir et un suivi à faire. Alors, merci Marie-Ève.
Parfait. Bien, justement, est-ce que je peux juste prendre un dernier petit moment? Justement, c'est ça, si vous avez vraiment des suggestions par rapport à un suivi peut-être plus régulier pour la prochaine année, là, d'une manière dont on pourrait procéder pour que, c'est ça, là, pour que je puisse vous rendre compte plus régulièrement de ce qui se déroule ou quoi que ce soit, vraiment là, selon vos besoins.
Je pense que cet automne, ça serait intéressant, là, après la rentrée, de voir là, comment ça se comporte, tout ça. Là.
OK.
Parfait.
Parfait, alors, merci beaucoup.
Merci, Marie-Ève.
Merci, au revoir, bonne soirée.
On revient à l'ordre du jour. On serait rendu, étant donné qu'il n'y a pas de période de questions, on serait rendu à aménagement et urbanisme. Avis de conformité, je laisse à Annick continuer.
Donc, je vais faire les avis de conformité. Ensuite, je vais céder la parole là, à Louis, qui va continuer là, pour les autres points en lien avec l'aménagement. Donc, la première conformité, donc c'est le règlement numéro 656-20 qui modifie le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Henri.
Qui propose?
Yvon.
Yvon et M. Christopher. Donc, la prochaine conformité, règlement numéro 211-2019 qui vise la concordance au schéma d'aménagement de la MRC relativement aux zones de contraintes situées dans la municipalité de Saint-Vallier.
Jean-Yves. Sarto, seconde.
Jean-Yves et Pascal. Donc, règlement numéro 407-2020 qui modifie le règlement de zonage numéro 298-2005 de la municipalité de Saint-Flémont.
Bernard
et Christian. Donc, voilà. Maintenant, je vais céder la parole à M. Louis Garon, directeur de l'aménagement et de l'inspection, pour la suite des points qui sont à l'ordre du jour.
Bonsoir tout le monde. Vous avez probablement vu que dans l'ordre du jour, il y a quand même quelques points qui sont réservés avec l'aménagement du territoire. Donc, je vais commencer tout de suite. Je vais pouvoir faire peut-être un partage d'écran. Ça serait peut-être plus approprié. Donnez-moi un petit instant. Je vais y aller comme ça. Comme ça, vous allez au point pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en a là, avec les documents. Le premier document, c'est grosso modo la Commission de protection du territoire agricole qui nous demande un avis parce que la municipalité de Saint-Léon de Standon n'a plus d'endroits pour entreposer sa neige l'hiver. Donc, ils se sont trouvés un terrain qui correspond à un ancien lieu d'enfouissement. Ce lieu d'enfouissement-là est situé en zone agricole. Donc, on avait besoin de regarder avec le schéma d'aménagement s'il y avait des contradictions au niveau du terrain puis au niveau de la planification régionale. Donc, après analyse, il y a concordance là, avec le schéma d'aménagement, il n'y a pas de problème.
Donc, ça prend une résolution?
Jean, je propose.
Yves Turgeon.
Yves Turgeon et?
Manon.
Jacques. Premier vu. Tu continues, Louis?
Oui, je continue avec le numéro 2. Je vous arrive avec, dans le fond, le projet de règlement, un nouveau projet de règlement qui modifie le schéma d'aménagement pour agrandir les périmètres d'urbanisation des municipalités de Saint-Vallier et de Saint-Charles de Bellechasse et aussi de faire une correction au périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Anselme. Je vais vous montrer les cartes. Ça va être plus simple pour vous de voir tout ça concrètement. Donc, le premier, c'est, on va y aller avec celui-là de la municipalité de Saint-Charles. Donc, ça, c'est la décision qu'on a reçue, si je me souviens bien, au mois de janvier ou février dernier, là, pour pouvoir agrandir leur périmètre d'urbanisation sur le bord de la route 279. Ensuite de ça, concernant la modification pour le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Vallier, je vous fais mention qu'on n'a pas encore reçu la décision, mais que l'orientation préliminaire a déjà été passée. Normalement, on devrait la recevoir, je vous dirais, dans une semaine ou deux, la décision, mais il ne devrait pas y avoir de grands éléments différents. Puis là, vous allez peut-être me poser la question, mais pourquoi est-ce que vous présentez un projet de règlement ce soir alors qu'on n'a pas reçu la décision? Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir faire l'enclenchement du processus. Donc, ce qu'on vous présente ce soir, c'est le projet de règlement. Donc, on va recevoir un avis du ministre dans 45 jours. On devrait avoir reçu la décision. Et de toute manière, la majorité du temps, il y a toujours des corrections à faire lorsqu'on présente des projets de règlement. Le troisième périmètre d'urbanisation à corriger, c'est celui-là de Saint-Anselme. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des propriétaires de résidences qui doivent toujours demander des autorisations de la CPTAQ s'ils veulent vendre, parce qu'il y a une partie de leur territoire qui est située à l'intérieur de la zone agricole. Donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est de sortir les parties de terrain où est-ce qu'il y avait des résidences de la zone agricole, puis d'agrandir le périmètre d'urbanisation. Le dézonage agricole a déjà été autorisé en 2019 et on le fait passer dans ce projet de règlement-là parce que sinon, si je ne me trompe pas, en février 2021, la décision va être rendue caduque si on ne fait pas la modification du schéma d'aménagement par rapport à ces terrains-là.
Donc, ça prend une proposition pour l'adoption du projet de règlement?
Oui, à moins que vous ayez des questions particulières sur le projet de règlement.
Questions?
Non.
Proposition?
Éric
et Jean-Yves. Point 4.
On va aller au point 3. Au point 3. Donc, on a besoin d'une résolution pour faire une demande d'avis au ministère des Affaires municipales et de l'habitation pour pouvoir avoir justement un avis sur notre projet de règlement.
Gilles Breton.
Gilles, appuyé par?
Manon.
Gilles et Manon. Ton 4 à toi, là, quand nous,
oui. Je ne savais pas qu'on n'avait pas les mêmes numéros.
C'est ça, c'est 7.5, consultation, projet de règlement.
OK, excusez, je vais prendre votre feuille d'ordre du jour, ça va être plus simple. OK. 7.5, au niveau de la consultation. Comme vous savez déjà, à cause de la fameuse pandémie, il n'y a pas de consultation publique qui peut se faire d'assemblée publique officielle. En temps normal, selon le décret du mois de mars ou avril, je ne me souviens plus exactement lequel, il fallait que le conseil dénomine le projet comme étant prioritaire. Et puis ensuite, il est possible de tenir une consultation écrite avec un avis dans le journal, comme il est fait à l'habitude, sauf que la différence, c'est qu'on reçoit les commentaires à la MRC. Depuis le dernier décret du ministre de la Santé et des Services sociaux, il est possible de ne plus demander la priorisation du projet, mais le restant de la procédure doit être tenu, c'est-à-dire de mener une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Vous observerez en numéro 2 ici que on doit nommer des commissaires pour pouvoir assister à la consultation publique, mais cette fois-ci, on reçoit les commentaires par écrit. Donc, je l'ai mis en jaune. Ma proposition pour vous, ce serait que les membres du comité d'aménagement constituent les gens qui analysent les commentaires qui sont reçus par rapport au projet de modification de schéma d'aménagement. La consultation serait d'une durée de 15 jours entre le 22 juin et le 6 juillet inclusivement, et le tout sera annoncé dans le journal.
Proposition?
Denise. Germain propose.
Germain, appuyé par?
Denise.
7-6.
Oui. 7-6, adoption de la nature des modifications. Donc, grosso modo, le document sur la nature des modifications, c'est le document qui démontre aux municipalités qu'est-ce qu'ils vont devoir changer dans leur règlement et plan d'urbanisme suite à la modification du schéma d'aménagement. Donc, ce document-là doit faire l'objet d'une résolution, être adoptée et transmise aux municipalités concernées.
Proposition.
Denis propose.
Denis.
Yvon appuie.
Yvon. 7-7.
7-7, je vous fais un point d'information sur le dossier 380-986, qui est le fameux dossier d'article 59 avec les îlots déstructurés et les secteurs à demande recevable pour l'implantation de résidences à l'intérieur de la zone agricole. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est un petit topo résumé des grandes lignes. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on discute de ce dossier-là ensemble. Donc, grosso modo, la demande initiale a été faite en 2014, le 18 juin. On a reçu une orientation préliminaire le 23 novembre 2018. Et ensuite de ça, on a eu une rencontre avec la CPTAQ en 2019 pour pouvoir leur recommander certains éléments sur lesquels ils ne savaient pas trop quoi écrire dans la décision. Et puis, si je passe très rapidement, là, le 30 avril dernier, nous avons reçu une orientation préliminaire modifiée qui comprend les recommandations qu'on avait à faire à la CPTAQ, ce qui fait en sorte que depuis le 30 avril, ils ont 30 jours pour remettre leur décision finale et officielle. Donc, ça nous mène dans 10 jours où est-ce que on devrait recevoir ce document-là. Par la suite, évidemment, ça ne nous dispense pas de respecter les obligations en matière d'aménagement. Donc, il va devoir y avoir une modification du schéma d'aménagement puisque toutes les cartes des îlots déstructurés sont toutes enchâssées dans notre document complémentaire du schéma d'aménagement et ainsi par la bande dans les règlements de zonage de l'ensemble des municipalités qui sont concernées. Donc, c'était simplement un point d'information. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont des questions particulières par rapport à ce dossier-là.
Questions? Sinon, c'est la suite logique de ce qu'on attend depuis 4 ans, 5 ans maintenant, pratiquement. Là. Alors, enfin, on a un dénouement dans tout ce dossier-là. Donc, il n'y a pas de résolution à passer. On serait rendu à 7-8, point d'information, application, règlement sur les chiens.
Oui, en fait, vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a un règlement sur les chiens dangereux là, qui a été adopté par le gouvernement. Donc, c'est un règlement provincial dont les municipalités doivent respecter. Ça a été entré en vigueur le 3 mars 2020. Puis, à l'heure actuelle, on a un règlement dans chacune des municipalités. C'est le règlement sur la sécurité publique. Et puis, il y a des petites modifications qui devront être apportées à chacun des règlements dans chacune des municipalités pour pouvoir ajuster avec la réglementation provinciale qui est entrée en vigueur. Donc, c'est tout simplement pour qu'il n'y ait pas des contradictions entre le règlement provincial et le règlement municipal. Donc, il y aura des propositions qui seront faites à vous par rapport à ça. Ensuite de ça, on a eu une rencontre avec les directeurs généraux de l'ensemble des municipalités le 24 avril 2020 par visioconférence. Où est-ce qu'il y a eu une recommandation pour former un sous-comité de travail pour la question de la gestion sur les chiens à l'échelle de l'ensemble du territoire de la MRC de Bellechasse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a un règlement et oui, on a des éléments à appliquer, sauf qu'à cause de la nouvelle réglementation provinciale, on se retrouve avoir beaucoup plus de responsabilités. Puis ces responsabilités-là ont un coût final qu'on doit analyser. Une recommandation qui avait été faite par les directeurs généraux, c'est de regarder les solutions pour qu'on puisse se pencher sur la question d'avoir une offre de service particulière pour pouvoir faire ces nouvelles tâches-là sur le territoire. Donc, grosso modo, je l'explique dans l'avant-dernier point, là, toute la question de la capture et de la garde des chiens, de l'analyse des chiens par un vétérinaire certifié, du ramassage d'animaux morts, l'inspection et l'application du règlement, ça fait beaucoup d'éléments ça fait beaucoup de nouvelles responsabilités qui sont octroyées aux municipalités. Puis, comme je vous disais, ces éléments-là ont un prix. Et puis, ce qu'ils nous recommandaient, c'est que peut-être que si on était capable de se mettre ensemble pour pouvoir déléguer ce service-là à une firme qui est spécialisée dans le domaine, peut-être que ça permettrait à la MRC de sauver de l'argent. Donc, pour l'instant, on est en stade d'élaboration dans le sens où le 28 mai prochain, on se rencontre avec le sous-comité qui a été formé pour réfléchir sur la question des chiens dangereux avec une personne de l'entreprise Esquad Canine qui est située à Frampton et qui est spécialisée dans tous les éléments dont je vous ai déjà nommé un peu plus haut. Donc, on va rencontrer cette personne-là par visioconférence, puis on va lui demander, dans le fond, de nous décrire quels sont les services qu'ils peuvent nous offrir, puis combien est-ce que ça coûterait. Puis par la suite, bien, on pourrait vous revenir pour vous faire état des résultats pour savoir si c'est une solution qui pourrait être intéressante pour la MSC de Bellechasse.
Question?
Oui, M. Garon, j'aimerais savoir, c'est Martin J. J'aimerais savoir si on va vers un service comme ça au niveau de l'ensemble de la MRC, ça veut dire que toutes les municipalités vont devoir embarquer ou ben si mettons avec exemple les squads canines ou ben si les gens vont pouvoir rester indépendants les uns des autres?
Je crois que ça peut être un avantage. Fait que ceux qui voudront bien se joindre à l'opportunité le feront, mais je ne pense pas que c'est dans notre intérêt d'obliger les municipalités qui veulent quand même demeurer autonomes à le rester. Là.
On ne pourrait pas, Louis, obliger les municipalités parce que c'est une compétence locale. Par contre, ce dont les directeurs municipaux veulent parler puis veulent regarder, c'est une proposition de service qui s'appliquerait aux municipalités qui voudraient bien embarquer dans ce projet-là. Mais il faut se rappeler aussi que déjà, à partir du 1er juin, on a une responsabilité d'inscrire les chiens, là, puis de donner des médailles pour ceux qui ne le feraient pas, là, ou de se mettre à jour dans ce dossier-là. Ça sera toujours une responsabilité qui va devoir être exécutée au niveau de chacune des municipalités. Ben, c'est l'après, c'est le suivi de tout ça, chiens dangereux, etc., qui pose une problématique, amasser des chiens errants et tout ça, là, qui a toujours été une problématique. Là.
Je me permets de faire une petite intervention par rapport à ça. L'avantage de l'offre de service de l'escouade canine de Frampton, c'est qu'eux, ils nous proposeraient de faire aussi la gestion de toutes les médailles sur tout le territoire. C'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent de délivrer et de vendre les médailles. Donc, c'est eux qui ramassent les profits qui sont générés par rapport aux médailles, mais le coût est de grosso modo zéro pour les municipalités. Ça lui, en fait, si on prend le service pour les 20 municipalités, par exemple, ça fait en sorte que ça génère des revenus pour lui d'environ 90 000 à 100 000 $ par année pour les 20 municipalités pour la vente des médailles, la gestion des médailles, ce qui fait en sorte qu'il peut aussi offrir le service d'application réglementaire.
De toute façon, on s'entend, Louis, que vous allez nous venir avec un projet.
Oui.
Les municipalités auront à décider s'ils embarquent ou pas, comme Martin l'a mentionné tout tantôt. Donc, oui. Oui, tu avais quelque chose?
Oui, monsieur le préfet.
Oui, David.
Oui, bon, on l'a appliqué, ce règlement-là, dernièrement, parce qu'il y a eu une attaque d'un chien dangereux, C'est M. Pelletier qui était notre DG. Il est là-dedans, mais je trouve que c'est très bien parce que nous, au moment, c'est notre administration qui fait toute l'organisation des MEDEC. Ça, ça va enlever un peu le poids sur la municipalité d'appliquer. Pour appliquer ce règlement-là, on a fait affaire avec la compagnie de Frampton. Ça a bien été. Le chien, les deux chiens ont été ramassés. C'était, je ne sais pas quelle sorte, mais c'était une race de pitbull. Bon. Que moi pour nous autres, c'est une très bonne affaire. Je ne sais pas si vous vous promenez dans la municipalité, mais dernièrement, je trouve qu'on a des chiens en colline de mine partout, là, surtout. Il y a
un, deux par municipalité. Notre décision va être en fonction du projet déposé. Alors, merci. Louis, y avait-tu d'autres choses, d'autres points relativement à l'aménagement?
C'est tout pour moi.
Alors, merci, Louis, d'avoir été présent.
Merci à vous.
On passe maintenant aux matières résiduelles. Il n'y a pas personne qui demande une pause. Non, on continue. Non. Nomination d'un fonctionnaire désigné. Alors, on y va avec David qui nous fait des suivis.
Oui, alors bonjour tout le monde. Tout le monde m'entend bien?
Oui.
Super. Donc oui, c'est ça. On va commencer avec le point 8.1 à l'ordre du jour, qui est la nomination d'une fonctionnaire, dans ce cas-ci, d'une fonctionnaire désignée. Donc, c'est une formalité pour permettre à Gaëlle Crête, qui est notre chargée de projet en gestion de matières résiduelles, qui a une portion de son travail là, qui consiste à, au niveau du suivi du plan de gestion de matières résiduelles, donc pour être capable d'appliquer les règlements relatifs aux matières résiduelles, notamment en ce qui concerne le tri là, des matières. Donc, vous voyez que c'est quand même bien résumé dans le projet de résolution.
Donc, ça prend une proposition. Qui propose? Exactement. Qui propose?
Pascal.
Pascal, appuyé par?
Jean-Yves. Luc.
Jean-Yves. 8-2.
8-2, oui. Donc, 8-2, on parle d'un système de plafonnement et d'échange des droits d'émission, communément appelé le SPED. Donc, c'est un projet, là, sommairement, pour vous résumer un peu ce que c'est. C'est le marché du carbone essentiellement qui permet de transiger des droits d'émission là, pour réduire les changements climatiques. Le lieu d'enfouissement, comme vous le savez, le lieu d'enfouissement de la MRC génère du méthane, donc des gaz à effet de serre là, très, très importants.
Oui.
Et oui, excusez, j'avais une petite coupure d'écran là, au niveau de la caméra. Tout le monde, donc, c'est ça. Tout ça pour dire que en appliquant au programme SPED, on pourrait donc, vous le voyez sur le petit diagramme qui vous a été déposé dans le résumé de projet, la MRC pourrait réduire donc les gaz à effet de serre en captant et en brûlant le biogaz. Et de cette façon-là, revendre des crédits carbone sur le marché du carbone et de cette façon-là, générer un revenu. Là. Donc, c'est essentiellement le projet lui-même. Ça fait un certain moment déjà qu'on travaille là, au niveau du service GMR à déterminer si le lieu d'enfouissement de la MRC serait admissible parce qu'il y a trois critères principaux là, qui pourraient permettre de déterminer l'admissibilité pour que ce soit un projet volontaire parce que pour être capable de vendre ces crédits carbone-là, il faut les faire de façon volontaire, c'est-à-dire qu'il faut investir de façon volontaire. Et si on prend les trois critères génériques, en théorie, le lieu d'enfouissement de la MRC serait éligible. Par contre, certains d'entre vous se rappellent, c'est qu'en 2012, il y a eu la problématique d'odeur là, associée au H2S. De notre matériel de recouvrement de cette époque-là. Et ce qui fait qu'on avait été obligé par le ministère de l'Environnement de trouver une solution. Et ça faisait en sorte qu'on a mis en place à ce moment-là un système de captage et de destruction de biogaz, mais pour une partie du site, donc pour la partie du site qui était visée pour le H2S. Donc, ça vient enlever ou enfin, ça vient rendre un petit peu plus fragile l'admissibilité du LET de la MRC. Voilà pourquoi on n'a toujours pas déposé un projet là, en lien avec le projet SPED. Par contre, comme vous le savez aussi, la quantité de H2S qui est produite à chaque année a diminué. Donc, ça reste qu'on est dans un moment dans le temps là, qui serait certainement un bon moment pour aller valider cette admissibilité-là puis pouvoir peut-être appliquer pour les crédits carbone. Comme vous le voyez là, dans le document, au niveau de la démarche, ce n'est pas un projet qu'on considère que la MRC peut réaliser seule puisque ça prend une expertise technique en ingénierie quand même assez poussée. Donc, ce qu'on regarde, c'est une structure de partenariat, ce qu'on appelle le partenariat public-privé, avec une firme d'ingénierie spécialisée pour concevoir le projet et un promoteur privé pour l'exploiter par la suite. Par contre, pour un type de projet comme ça, procéder par un appel d'offres, c'est pas possible c'est très difficile, si je devrais dire plutôt, parce que il y a beaucoup de risques, comme vous l'avez vu, au niveau de notre projet en particulier, notamment la condition particulière du H2S sur lequel le ministère va devoir statuer, mais aussi à cause notamment de l'incertitude du marché du carbone qui est essentiellement un marché boursier. Ce qui fait que, dans le fond, le prix du carbone, quand on vend les crédits, il est fixé par un marché public, là, essentiellement entre le Québec et la Californie. Au Québec, au moment où on se parle, depuis 2004, il y a 12 projets SPED qui ont été réalisés dans les sites d'enfouissement admissibles, dont 11 des 12 ont été réalisés par les deux firmes. Soit 6 par WSP et 5 par Terreau Biogaz qu'on a rencontré avec le CGMR. Au niveau juridique, pour être capable de faire un partenariat de cette nature-là sans passer, par un appel d'offres, c'est possible, mais il faut que la MRC ne paye rien pour le projet, ce qui est essentiellement la proposition que ces deux firmes-là font. Et que l'entreprise qui veut contracter avec la MRC soit inscrite au registre des lobbyistes. Et que finalement, lorsqu'on sera rendu à vendre les crédits carbone, si le projet se réalise, qu'on soit en mesure de déclarer les montants, le prix de vente obtenu pour les crédits. Jusque-là, ça va?
Oui.
Oui.
Vous comprendrez que, évidemment, on parle de vente de crédits carbone, donc il y a une composante environnementale au niveau de la réduction de gaz à effet de serre, mais que, donc, on parle de bourse du carbone, donc c'est un projet sur lequel il y aurait un rendement financier important pour la MRC. On parle d'un rendement qui serait, dont le risque serait assumé par le promoteur privé à 100%. Et il y aurait un contrat, dans le fond, qui serait structuré pour permettre l'exploitation de cette infrastructure-là pendant 10 ans. Les profits restants, donc le revenu net, une fois les frais d'exploitation et les frais d'investissement amortis, seraient partagés là, selon une méthode de calcul entre le promoteur et la MRC. Mais c'est possible aussi de se faire offrir une redevance fixe, c'est-à-dire qu'il ne soit pas lié au risque du projet. Donc, à ce moment-là, ce serait un revenu tout simplement pour la MRC, mais possiblement moins intéressant que si on prenait l'option du partenariat. Dans le cas des chiffres qu'on a commencé à regarder, on parle là de plus de 4 000 $ par mois pendant 10 ans, donc essentiellement, un projet qui régénère des retombées pour la MRC de plus de 500 000 $. Et si on est capable de faire le projet dans les temps et respecter les normes, la première période de 10 ans, elle peut aussi offrir une deuxième période d'éligibilité. Mais là, à ce moment-là, ça devient encore plus intéressant parce que les infrastructures sont déjà en bonne partie construites. Là, il reste juste à en rajouter. Là. Comme vous pouvez voir, le plan de match du CGMR à date, on a commencé par faire évaluer le potentiel du LET, mais aussi du LES, parce qu'il faut savoir que principalement, c'est le lieu d'enfouissement technique qui produit des biogaz. Mais au niveau de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire qui est sur le même site, il produit encore des biogaz et qu'il y aurait possiblement là, un rendement à faire avec ce site-là. Ensuite de ça, on a fait la demande d'admissibilité en bonne et due forme au ministère de l'Environnement, mais à ce moment-ci, le ministère ne peut pas la garantir. Ils ont changé de politique et ne garantissent plus les admissibilités au SPED avant que les projets soient déposés. les deux firmes ont été rencontrées parce que, dans le fond, il y avait des propositions là, préliminaires avec des hypothèses différentes. Donc, on jugeait bon, de, avec le CGMR, là, de, d'éplucher ces propositions-là. Puis, je ne vous cacherai pas que, comme on n'est pas en appel d'offres officiel en tant que tel, donc ça demeure une analyse qui est quand même assez subjective parce que ce n'est pas les deux firmes qui travaillent le projet de la même façon, notamment la gestion du risque. En date d'aujourd'hui, suite à la discussion avec la direction générale, puis notre préfet, puis le comité, il reste qu'il y a des événements, des éléments juridiques à évaluer parce qu'à partir du moment où on pourrait choisir l'une ou l'autre des propositions, il faut s'assurer que les recours là, sont limités au niveau de l'autre partenaire potentiel. Et ensuite de ça, aussi, il y a des éléments quantitatifs et qualitatifs. Ce qu'on demande essentiellement à la lumière de ce projet-là, comme il y a déjà du travail un peu qui a été fait, avant de continuer, est-ce que le conseil appuie, dans le fond, essentiellement la démarche du CGMR de continuer à travailler sur un projet SPED, donc de travailler pour obtenir les informations qui ne sont pas encore, si on peut dire, tout à fait comparables avec le plus d'objectivité, d'obtenir aussi la validation juridique sur la manière de procéder avec un conseiller là, juridique, puis à la limite de probablement être arrivé à un choix d'une des deux propositions malgré que les résultats ne peuvent pas être garantis avant de commencer. Donc, de baser ça sur une relation de confiance et peut-être certains critères là, qui ne seraient pas à 100% comparables non plus. Là.
Donc, tu nous demandes, David, de donner suite à la recommandation du CGMR qui est oui. de t'autoriser à continuer à travailler sur le dépôt du projet SPEED, en rappelant exact. Que ce projet-là, c'est un projet à coût zéro pour la MRC, puisque c'est l'entreprise qui prend tous les risques, c'est-à-dire qu'eux réalisent un projet ajouté, parce qu'il faut le préciser, c'est un projet pour ajouter des torchères à un système actif de torchères, au lieu d'un système passif comme on a. Donc, c'est un investissement, un projet pour une firme qui est évaluée aux alentours de 500, 550 000 et l'autre, le projet est évalué à 1 million. Vous comprendrez qu'après, le rendement n'est peut-être pas le même si tu investis 1 million ou 500 000, d'où la discussion à savoir de bien comprendre les deux propositions, à savoir laquelle est la plus avantageuse. Mais ce soir, c'est de dire, est-ce qu'on continue à appliquer au projet SPED, qui est un projet à coût zéro pour la MRC, qui nous promet des redevances pour le futur et d'un. Par la suite, que le comité, avec la direction, analyse les différentes propositions pour s'assurer qu'on choisira la meilleure entreprise dans ce projet-là. C'est à peu près ça, David?
C'est, oui, c'est exactement ça. Puis comme vous voyez, le projet de résolution il est structuré là, de cette façon-là. On a séparé le mandat là, exactement selon les lignes que vous venez de décrire pour s'assurer qu'on continue le travail et qu'on revient avec les informations à une prochaine séance.
C'est beau. Donc, ce soir, c'est juste une autorisation pour continuer à travailler sur ce projet-là. Proposition?
Yvon, je propose.
Yvon, appuyé merci. Par Yves.
Est-ce qu'on peut y poser des questions à David? Ou,
Oui.
Je veux dire, écoute, David, je reviens à... C'est un beau projet. J'ai deux, trois petites interrogations en rafale. Tu présentes un projet là, en fin de plan de lutte. Là. C'est un plan de lutte 2013-2020. Tu arrives en 2020, tu nous présentes le projet. C'est sûr qu'il va y avoir un nouveau plan là, de lutte contre les changements climatiques 2021, probablement 2026. Ça, c'est probablement sa planche à dessin. Pourquoi cette année, pas l'an prochain? Sachant que dans le plan stratégique là, du ministère, 2019-2023, je pense, la réduction, c'est vraiment un axe. Alors, c'est sûr que le plan de lutte, là, j'essaie de comprendre d'abord pourquoi tu le présentes en 2020 et de ne pas attendre le prochain plan. Peut-être qu'il y aura d'autres conditions, je ne sais pas. La première question.
OK, bien donc, si on les prend une par une, oui, dans le fond, le plus tôt on dépose un projet, le mieux c'est parce que dans le fond, plus le site se remplit, plus notre fenêtre d'opportunité pour les deux périodes de 10 ans qui sont admissibles rétrécit. En d'autres mots, vous l'avez peut-être vu, puis on peut remonter. Là, c'est sûr, je ne peux pas faire la partage d'écran.
Mais je l'ai devant moi. Là, je suis capable de
l'arriver
là-dessus.
Si vous remontez au niveau de l'admissibilité, vous voyez que là, au moment où on se parle, on a jusqu'à 850 000 m3 d'espace où est-ce qu'on est capable de faire un SPED. Là, on en a 533 000. Donc, si on attend, on utilise une capacité grosso modo de 30 000 m3 par année. Donc, dans 10 ans, on va être pas mal sur la ligne du 850 000. Par contre, on ne pouvait pas le faire avant, comme je vous dis, à cause de toute la polémique du H2S qu'il fallait mettre derrière nous. Donc, si on avait pu le faire avant puis avoir une autorisation du ministère, une admissibilité avant, on l'aurait fait avant. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, dans le fond, c'est deux périodes de 10 ans et c'est terminé, là. C'est sûr que si on perd un an, ben, comme je l'ai dit, avec un 4 000 $ par mois, on pense que c'est 50 000 $ aussi qu'on peut perdre. Là.
Autre question, Éric?
Oui, seconde question. Tu soulèves la question de validation juridique, mais tu demeures très évasif sur quel type de validation juridique. Je comprends que je ne te demande pas de dévoiler le secret des dieux, là, mais je veux dire... Quel genre
ben, l'élément clé, je vous dirais, de la validation juridique, ce qu'on veut juste s'assurer, c'est que comme les deux propositions sont différentes et on pourra peut-être pas garantir 100%, on veut s'assurer qu'on peut prendre une proposition qui nous apparaît peut-être plus réaliste, mais dont les chiffres sur papier sont pas nécessairement comment être capable de départager les. La proposition basée sur des critères qui ne sont pas nécessairement à 100% objectifs, basés sur le fait qu'on achète aussi une expertise puis une gestion du risque et non pas juste un rendement financier. En d'autres mots, si une des firmes a une stratégie, par exemple, de gestion de la demande au niveau du ministère de l'Environnement qui est plus réaliste, c'est quelque chose qui nous porte à penser que le projet a plus de chances de se réaliser. Oui. Maintenant, est-ce que les juridiques vont être capables de nous donner une procédure là-dedans ou pas? C'est ça qu'on veut savoir.
Mais David, essentiellement, l'avis juridique, c'est la préparation de l'entente qu'on aura à faire avec l'organisation, un peu exactement comme le projet éolien qu'on avait fait. Alors, on a signé une entente qui nous partage après ça, où on s'est bien entendu sur le partage des redevances et les responsabilités des deux parties en lien. Or là, on veut avoir un projet à coût zéro pour la MRC. On veut s'assurer qu'il n'y a pas une petite clause à quelque part qui dit que si le projet n'est pas rentable, que la MRC va être obligée d'investir là-dedans. Tu comprends, Eric, que la partie...
C'est très bien. C'est pour ça que je voulais plus comprendre. OK. Dernière question à rafale, David. Là, c'est j'aimerais savoir, tu sais très bien, autant que moi, que le gouvernement va nous imposer, les municipalités, donc les MRC, à réduire globalement nos émissions à effet de serre. Bon, le LET... passe dans un projet qui est particulier. Est-ce que ton service et la MRC comptent évaluer l'ensemble des émissions à effet de serre que la MRC arrive et puis dégage? Parce qu'éventuellement, on va extrapoler le principe que tu nous présentes sur l'ensemble des émissions à effet de serre. Là. Est-ce que c'est envisagé à court terme ou bien on attend que le gouvernement nous l'impose avec une messure?
Est-ce que c'est demandé du CGMR de faire ça?
Ben c'est la question, là, parce que vous le faites là, vous faites de l'environnement.
Peut-être juste apporter.
On fait là parce que c'est le LET, là. C'est ça?
Ben, c'est-à-dire que dans le cas du LET, il y a un protocole qui est en place à cause que les LET produisent le méthane. On parle d'un équivalent CO2 de 15 000 tonnes par année, donc c'est très important. Fait que le ministère a mis en place le protocole pour que les lieux d'enfouissement puissent investir et revendre les crédits. Maintenant, ça, c'est le bout qu'on fait parce qu'on sait qu'on a un rendement pour tout ce qui sort de ce cadre-là présentement. Je veux dire, on est ouvert aux recommandations, mais comme dit Germain, nous, on s'est concentré à voir est-ce qu'on était capable de rentabiliser l'infrastructure du site d'enfouissement en vertu des programmes existants. Puis, en même temps, parallèlement, contribuer à réduire les gaz à effet de serre.
Mais il faudra aussi, David, attendre de voir s'il y a des paramètres spéciaux qui s'appliquent justement à notre site d'enfouissement, puis dans quelle mesure. Or là, de s'avancer, puis de dire on fait des études, c'est peut-être là, on nous offre une opportunité de réaliser un projet à coût zéro qui va nous donner un avantage, donc des ristournes dans le futur, et qui nous permet de transférer d'un système de torchère passif à un système de torchère actif. Je veux juste vous rappeler que dans le passé, si on s'est doté d'un système de torchère, c'était pour régler toute la problématique des odeurs. Et la solution qu'on a mise en place, c'était la solution qu'on pouvait se payer à l'époque. Parce que torchère, là, on le voit, c'est un projet d'un million de passer d'un système de torchère actif à un système de torchère passif. Si on n'avait pas cette opportunité... Oui. Martin?
Peut-être pour compléter, monsieur le préfet, c'est également c'est qu'on on a l'opportunité de pouvoir vendre des crédits carbone. Fait que ce cas, ça n'existait pas avant, ça fait qu'on a une chance de le faire. Puis l'autre bout, sur le mandat juridique aussi, monsieur Éric, c'est de... Étant donné qu'on peut aller de gré à gré avec deux soumissionnaires, c'est qu'il faut être capable d'expliquer au deuxième pourquoi on ne le prend pas. Et ce bout-là est important aussi. Là.
Compte tenu de la différence entre les deux propositions.
Et voilà.
C'est beau. Donc, on irait avec cette proposition-là à l'état fait. C'est beau. On irait maintenant à l'autre point. Programme d'analyse environnementale 8.4.
Moi, je crois qu'on aurait le 8.3, monsieur.
Ah, dépôt en aide, excusez, 8.3. Wow.
Dans le fond, oui, c'est ça. La municipalité d'Arma, par l'entremise de ses consultants en ingénierie, nous a envoyé une lettre pour évaluer la possibilité de mettre un dépôt à neige sur les infrastructures du site d'enfouissement de la MRC, parce que du point de vue de la municipalité d'Arma, ça semblait être un choix judicieux d'emplacement. Vous voyez donc dans les documents qui vous ont été fournis la copie de la lettre en question qu'on a reçue. Puis vous voyez aussi la recommandation au niveau du CGMR qui a pris le temps de se pencher sur cette lettre-là. Essentiellement, ce que le CGMR recommande, ce serait pour l'instant, à tout le moins, là, de recommander au conseil de refuser le fait de participer à cette analyse conjointe-là, là, de fournir des documents puis de regarder ça, parce qu'au moment où on se parle, il y a tellement de projets qui sont en cours d'analyse dans nos propres infrastructures que de rajouter ce volet-là à ce moment-ci, ça serait un peu prématuré, compte tenu de la limite qu'on a aussi pour le traitement de l'eau. Puis vous voyez, dans le fond, là, je ne vous relirai pas le document au complet, mais il y a un certain nombre de choses que le CGMR a pris en compte qui leur fait recommander que ça serait probablement mieux que la municipalité d'Arma regarde pour un autre site à court terme pour son dépôt à neige que sur le site. Par contre, vous voyez aussi en deuxième que le CGMR recommande au conseil de laisser la porte ouverte, c'est-à-dire que si la municipalité d'Arma était capable de faire la démonstration que c'est vraiment une opportunité pour les deux, donc pour la MRC, puis de peut-être d'avoir des synergies qui dépassent les inconvénients qu'on a listés, bien à ce moment-là, de ne pas faire la sourde oreille et d'écouter la proposition d'Arma dans un deuxième temps, si c'est le cas. Là.
Qui est prêt à proposer à aller dans le sens de la recommandation du CGMR?
Pascal.
Pascal, appuyé par?
Gilles Breton.
Gilles Breton, c'est beau.
8-4, oui, c'est ça, exact. Donc, dans ce cas-ci, on parle, dans le fond, d'un octroi de contrat là, qui est pour les analyses environnementales qu'on fait dans lien avec le suivi du site d'enfouissement. Dans le fond, nous, on a fait 3 demandes de prix à des firmes là, accréditées là, au niveau du ministère. On avait vraiment regardé toutes les options, là, c'est-à-dire... Si on envoyait certaines analyses à certains laboratoires pour essayer de ramasser, si on peut, l'économie là, des analyses les moins chères à l'un ou à l'autre des laboratoires, puisqu'il n'y a pas vraiment de notion là, de différenciation entre les laboratoires, c'est pas mal tous les mêmes paramètres, sauf que ça s'est avéré plus simple là, dans ce cas-ci de prendre la proposition de prix d'Agathe Laboratoire, le laboratoire avec lequel on fait affaire d'ailleurs depuis... déjà quelques années, qui arrive au montant estimatif de 45 400 là. pour l'année 2020, ce qui est quand même en dessous là, du montant qu'on avait budgété pour ces analyses-là en 2020. Là. Fait que c'est pour ça qu'on recommande ça.
Qui est prêt à proposer?
Tarto.
Tarto, appuyé Éric. Par?
Éric.
Éric, c'est beau. Campagne de sensibilisation 8.5.
Oui, donc là, pour les points 8.5 et 8.7, c'est des projets qui se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire que on dépose des demandes de financement à des instances. Donc, dans le cas du 8.5, c'est au niveau de Recyc Québec. C'est un projet qui vise à faire la promotion là, de la réduction du plastique à usage unique. Ça, essentiellement, c'est une bonne vieille campagne de sensibilisation là, comme il peut se dérouler là, dans plusieurs régions l'été. Le volet qui est intéressant de cette campagne-là, c'est qu'elle est séparable en trois volets qui permettent d'avoir beaucoup, beaucoup de visibilité. Donc, on pense qu'il serait très efficace au niveau des festivals et des événements. Au niveau des ICI, qui est un secteur qui est un petit peu laissé pour compte, notamment les écoles, mais aussi les fermes, avec le plastique agricole, entre autres. Et tout un volet d'information citoyenne aussi là, pour vraiment toucher le plus grand nombre. Ce qui est intéressant de ce programme-là, c'est que Recyc Québec finance là, jusqu'à 70 % des dépenses. Puis que le 30 % résiduel, si on peut dire, qui est contribué par la MRC, peut être fait en nature. Donc, à même les dépenses salariales qui sont budgétées dans les chargés de projet, notamment Gaël, donc chargé de projet en GMR, mais aussi notre agent de projet qui va peut-être pouvoir contribuer à ce projet-là. Fait que vous voyez que ce montage financier-là, dans le fond, permet d'ajouter un levier pour des mesures de PGMR que autrement serait venu de notre budget là, pour l'année 2021. Donc
c'est un projet à coût pratiquement zéro, sauf nos ressources à l'interne. Mais il n'y a pas d'investissement direct de débourser d'argent. Là, le 30 000 provient du travail de nos ressources.
Exact, qu'on affecte sur le projet.
Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce dépôt de projet-là?
Manon propose.
Christian appuie.
C'est beau. Programme de. Oui.
Oui, c'est ça. Juste avant de passer au 8-6, là, donc, 8-6. Donc ce projet-là va être déposé parce que les dates de tombée arrivent, mais avant que. C'est 2021. Donc, avant, quand on aura l'acceptation, si on est accepté, on pourra revenir aussi au conseil pour faire le bilan final de ce qui a été accepté, puis vraiment. Faire un point d'information à ce moment-là.
C'est beau.
8-6, c'est essentiellement ce que vous voyez, c'est la correspondance. Ben, c'est-à-dire, c'est le résumé d'abord du projet des couches lavables. Ça fait quelques fois qu'il y a des citoyens qui interpellent le service gestion de matières résiduelles ou les municipalités locales. Donc, on vous a dressé un portrait global de ce que ça peut représenter quand même les couches lavables. C'est basé sur les hypothèses là, de ce que c'est une dame, là, une résidente de Saint-Anselme là, qui a monté ce projet-là basé sur ce qui se fait un peu partout au Québec. Ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'un enfant va générer jusqu'à une tonne de déchets là, par rapport à ses couches jusqu'à la propreté. Donc, au niveau de la réduction à la source des matières résiduelles, ça peut être intéressant. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, vous l'avez vu, il y a des gens dans plus de 11, à peu près 11 municipalités de Bellechasse qui ont adhéré à ce projet-là. Il y a déjà des municipalités qui se sont dotées d'un programme au niveau local. Puis, on a des actions là, dans les politiques famille et aînés qui touchent un peu ces mesures-là. Ce qui fait que quand le CGMR en est venu à l'analyse de la demande, il a été recommandé, si vous voulez, de donner une certaine forme d'appui à cette initiative-là qui est bonne, mais plutôt que de reprendre ça à la MRC, vraiment de remettre ça dans les mains des municipalités locales qui veulent l'intégrer à leur bon vouloir là, dans leur politique famille aînée. Donc, la recommandation, le projet de résolution qui est proposé pour ça vient prendre acte de la pétition de la citoyenne et propose aux municipalités d'analyser localement là, l'implantation de ce projet-là.
De décider si elle embarque ou pas dans un tel projet.
Exact.
Alors, t'attends-tu une résolution de la MRC dans ce dossier-là? Oui. Qui propose? Oui.
Peux-tu avoir une question? J'aurais une question là-dessus.
Oui, Denise. Denise?
Oui, je voudrais savoir si on est plusieurs municipalités dans la MRC de Bellechasse. Nous, on le fait déjà, on a des
problèmes
là depuis quelques années.
Bien, à date, selon mes informations, il y aurait vous, effectivement, la municipalité de Saint-Clair et la municipalité de Saint-Vallier. Puis, si on prend les 33 là, qui sont desservis, il y a la municipalité de la Ketchumin aussi qui a ça dans Chaudière-Appalaches, au niveau du service.
C'est bon, merci.
C'est beau. Donc, une proposition pour aller dans le sens de la recommandation que c'est une décision de chacune des municipalités locales d'investir dans une telle mesure.
Éric.
Denise propose.
Non.
J'ai vu David en premier.
On a l'autre municipalité, David, qui est là-dedans aussi. Beaumont est là-dedans. On a pas ça.
Oui, c'est vrai. OK. C'est bon. C'est parce qu'elle n'était pas dans la liste qu'on m'avait fournie, mais c'est plus récent. Ça se peut-tu, vous?
Oui. Mon boss.
OK. Super.
8-7, suivi environnemental pour Dorouin.
Donc, encore une fois, on parle d'un programme de financement. Écoutez, pour faire une longue histoire courte, vous vous rappelez qu'en 2019, on avait déposé des études hydrogéologiques en lien avec la qualité de l'eau souterraine. Et lors de la présentation qu'on avait faite à Arma de ça, une des préoccupations citoyennes principales qui avait été évoquée, c'était la qualité de l'eau au niveau du cours d'eau ouais, et de l'impact potentiel du site d'enfouissement. Parce que les études hydrogéologiques concluaient majoritairement qu'au niveau de l'eau souterraine, il n'y avait aucun risque ou le risque était très, très faible finalement, mais qu'il pouvait quand même y avoir un impact sur le cours d'eau roi. C'est une situation qu'on connaît et qu'on sait. Et on mesure le cours d'eau roi au niveau du suivi environnemental depuis des années. Mais le comité de vigilance et le CGMR, suivant la rencontre, puis vous voyez que dans les pièces justificatives, on vous joint là, la recommandation qui avait été faite de demander une proposition. Cette proposition-là, elle était demandée à l'organisme des bassins versants pour faire une caractérisation du cours d'eau. Et le projet qu'ils nous ont déposé, dans le fond, là, en ce moment, cadrerait dans un programme de financement qui s'appelle le programme de soutien pour les enjeux de l'eau, dans le fond. Là. Fait que ça, c'est un autre programme qui finance à 75% les coûts de projet. Donc, c'est un projet qu'on a évalué basé sur des estimés là, à date à 46 875 pour être précis. Et on pourrait avoir un financement de l'ordre de 35 000. Par contre, pour que ce projet-là soit encore mieux, si on peut dire, des meilleures chances d'être accepté, c'est intéressant d'être capable d'avoir un apport du milieu, donc autre que la MRC. C'est pour ça qu'on est en pour parler avec des firmes comme SNC-Lavalin, entre autres, et une firme au niveau des communications. SNC-Lavalin nous a aidés au niveau de la diffusion des études hydrogéologiques, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, eux pourraient contribuer là, aussi en nature dans le projet, faire en sorte que l'enveloppe devienne élargie au niveau des partenaires privés. Puis, ça ferait que, donc, non seulement dans ce cas-ci, on pourrait avoir un financement du projet, mais ça viendrait faire un effet de levier sur une partie de notre suivi environnemental. Si tout se manifestait comme le scénario qui est déposé là, ce qui n'est pas nécessairement garanti à ce moment-ci, mais on pourrait penser qu'on irait même jusqu'à financer 4 000 des dépenses qui étaient prévues là, du suivi environnemental, là, notamment certains échantillonnages dont on a parlé dans le point 8.3. Donc, ce qu'on cherche à avoir, là, c'est une recommandation du conseil de la MRC pour faire un dépôt de projet pour la demande de financement dans les temps, de le présenter aussi au comité de vigilance pour que le comité de vigilance appuie également ce projet-là, ce qui va être un plus là, pour être capable d'aller chercher le financement. Là. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus.
Proposition. Donc, c'était une proposition de réaliser ce projet-là. Quand tu dis une recommandation, là, c'est bien plus de réaliser le projet, d'aller chercher des partenaires, un partenaire supplémentaire, c'est un dépôt
de projet. Déjà d'accepter la proposition de l'OBV, ensuite de ça, de déposer au niveau de la demande de financement là, du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, puis bon. Effectivement, de toute façon, comme le 8-5, c'est 2021, donc on viendra à l'automne une fois que la proposition sera acceptée. Là.
Donc, vous avez pris connaissance de la résolution. Qui propose, si vous êtes d'accord?
Je propose Clément.
Moi, je suis second. Éric.
Gilles et Éric.
En tout cas, pas de problème. Ça ne s'assinera pas.
Étais-tu d'accord? C'est quoi? J'ai-tu...
Non, pas... non, ça va. Ça va, c'est parce qu'il y avait eu moi. Il y avait moins Éric et Christian.
OK. Ça va.
Mon micro était fermé.
C'est ça, il y a quelqu'un, je n'ai pas entendu. Fait que c'est beau, merci David.
Merci, bonsoir. Merci,
à la prochaine.
Maintenant, dans la partie administration, correspondance, Annick.
Donc, partie correspondance, donc trois correspondances pour ce mois-ci. Là, comme vous le voyez, on en a moins qu'à l'habitude. Donc, la première correspondance qui nous provient là, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est pour nous mentionner là, que notre règlement 277-20 qui modifie le schéma d'aménagement et de développement révisé là, est conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. La deuxième correspondance reçue nous vient de développement. Dans le fond, c'était lors de la rencontre du 24 avril 2020, là, où il y avait une résolution qui avait été adoptée par le CA de développement économique afin de mettre fin à la limitation d'accès au territoire de Bellechasse et permettre l'ouverture des commerces et services du territoire, chose qui a été faite il n'y a pas si longtemps. Et la dernière correspondance qui nous provient de Passion FM, donc au niveau d'une demande d'aide financière là, en lien là, avec leur projet de relocalisation là, de leurs installations. Donc, peut-être je céderai la parole à Clément pour ce point-là.
Alors, suite aux discussions qu'on a eues, ce serait bon de passer une résolution d'intention, comme on l'a dit, que la MRC est peut-être prête à... un montant à la Radio Bellechasse pour le financement de la bâtisse qu'ils ont à mettre en place et peut-être la relocalisation de l'antenne de Saint-Raphaël. On ne ferait pas mention de montant, mais en disant que le montant sera décidé ultérieurement en tenant compte de l'aide financière qui sera accordée à la MRC dans le programme FDT. Deuxièmement, de connaître aussi l'implication de la MRC des aides-chemins dans ce projet-là. Or, dans le fond, c'est une résolution d'intention de signifier qu'on est prêt peut-être à verser un montant, mais que le montant sera à déterminer dans le futur selon les éléments que je vous ai donnés, puis peut-être aussi un troisième élément qui est le montage financier final de ce projet-là. Est-ce que ça vous va? Oui. On l'a passé. Alors, ça prendra une proposition, puis ceux qui s'opposent, bien, ils pourront le signifier.
Propose, Yvon.
Yvon propose.
Sébastien.
Sébastien.
Je m'oppose, moi, Clément. Là, j'aurais bien aimé avoir un projet de résolution en bonne et due forme aussi, là. Alors, je m'oppose.
Tu t'opposes?
Moi aussi, je m'oppose.
Manon s'oppose. C'est beau? On passe maintenant, après correspondance, on passe à vente pour taxe report. Annick?
Excuse, Annick. Dans la correspondance, tu avais eu une lettre de Entraide Solidarité.
Oui. Je l'ai mis dans un point à part, justement, pour qu'on puisse en discuter.
Parfait. Bon.
Donc, au niveau du point report de la vente pour non-paiement de taxes, là, comme vous le savez, là, l'état d'urgence sanitaire là, a été reporté encore d'une semaine, là, qui nous mène au 23 mai. Notre vente était cédulée pour le 11 juin prochain. Donc, comme vous le savez, là, étant donné que l'état d'urgence sanitaire n'est pas levé, on va être dans l'obligation là, de reporter la tenue là, de cette vente-là là, à une date ultérieure qu'on n'est pas en mesure de fixer pour le moment, là, étant donné qu'on ne le sait pas là, quand il y aura cette levée-là. Donc, voilà, là, c'est la résolution, c'est un résumé de la résolution qui vous est proposée. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui propose et seconde cette résolution-là. Puis, il y aura un avis public qui sera fait dans le journal à l'effet qu'elle est reportée à une date ultérieure également.
Denise.
Martin J. appuie.
Ben, j'ai Denise et Yves pour l'instant.
Vas-y tout de suite, ouais. 9-3.
Donc, 9-3, agence de mise en valeur des forêts. Donc, c'est à chaque année, là, on doit nommer quelqu'un là, sur l'agence de mise en valeur des forêts privées. Donc, jusqu'à présent, c'est M. Martin J. Côté là, qui s'est pour le compte de la MRC sur ce comité-là.
Propose Martin, bon.
J'ai même pas eu le temps de dire que je laisserai la place à quelqu'un d'autre dans la gang du bison.
Ben, si tu veux, là.
J'ai juste pas compris qui a proposé secondé. Yvon.
Christian appuie.
Donc, Martin, tu as l'ensemble des documents que j'ai joints là, à l'envoi pour la prochaine rencontre là, que tu vois qui est cédulée là, le 8 juin. Donc, tu as l'ensemble des documents que j'ai joints à l'envoi du conseil.
Ben, super, merci.
T'acceptes-tu, Martin?
Ça nous fait plaisir.
T'as plus le choix, là.
Ben là c'est... Merci, M. Lacasse. Je vais m'en souvenir.
9-4, Entraide, Solidarité, Bellechasse, demande de financement. Peut-être Annick nous dire c'est quoi un petit peu rapidement.
Donc, Entraide, Solidarité, Bellechasse, vous avez vu là, la lettre. J'en ai fait un point distinct plutôt que de le mettre à la correspondance, étant donné que, pour faire un bref historique de tout ce dossier-là, c'est qu'auparavant, il y avait un financement qui était accordé à l'organisation là, justement pour le transport d'accompagnement. Il y a eu une coupure qui a été faite parce que le ministère des Transports a arrêté de financer ce type de transport-là. Vous savez, nous, à la MRC, on fait du transport collectif, du transport adapté, du transport interurbain. Et le transport d'accompagnement n'était pas dans notre champ de compétences. Donc, le ministère a arrêté de nous subventionner ce type de transport-là. Donc, on a coupé la subvention qui était octroyée à l'organisation auparavant. Par la suite, Entraide Solidarité de Bellechasse a déposé des projets au Fonds d'appui au rayonnement des régions avec l'ensemble là, des organismes qui font du transport d'accompagnement dans la région de la Chaudière-Appalaches. Donc, il y avait Bellechasse qui avait été déposé, il y avait en Beauce également qui avait un organisme qui avait déposé et dans le Binière. Donc, ce financement-là là, avait arrivé du fort là, pour une période de 2 ans. Leur période de 2 ans, financé par le FOR, c'est terminé là, au 31 mars 2020. Donc, Entraide revient là, avec une demande, mais qui est adressée à la MRC en lien justement avec tout ce qui est transport d'accompagnement. Pour, dans le fond, c'est une subvention qui est versée aux gens qui utilisent ce type de transport-là pour les aider financièrement là, à défrayer les coûts qui sont associés à. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, comme Annick vous l'a souligné, avant ça, on avait pris un montant dans le phare régional. Et là, on s'adresse à la MRC pour savoir si on peut mettre un montant pour aider le transport d'accompagnement. Alors, j'écoute vos commentaires.
Oui, une question comme ça, là. Est-ce qu'il y a un montant qui est... Moi, j'ai lu le document, je ne vois pas de montant vraiment. Là. Est-ce que j'ai mal lu ou bien...
Oui, 15 000 $ sur la lettre.
OK, ben, j'ai du mal lire. OK, parfait. Autre question, l'organisme n'a pas fait une demande au CIUS ou bien au M3S? Parce que ce que j'ai vu quand même, il y a beaucoup de ces accompagnements-là qui avaient des motifs de santé.
Principalement des motifs de santé.
Oui, c'est ça. Là. Il y en a quelques-uns autres, là, mais disons que principalement les motifs de santé, sachant que le ministère a quand même de bons fonds là, à cet égard-là. La question est ouverte. Là, parce que...
Je suis au courant qu'ils ont reçu un certain financement du CI3S au transport d'accompagnement. Est-ce qu'ils reçoivent encore ce financement-là? Je ne suis pas en mesure de vous répondre, mais je sais qu'après la que la MRC a fait. C'était un 30 000 $ qu'on versait annuellement. Là. Quand on a fait cette coupure-là, je sais que le CIS est venu compenser pour une certaine période. Est-ce qu'il finance encore ou pas? Là, je ne suis pas en mesure de répondre à la question, mais il y a eu effectivement du financement qui a été donné par le CIS.
Bien, je veux dire, si la MRC remplace le financement que le CIS et que le M3S devraient apporter, là encore là, je pense qu'on devrait d'abord et avant tout s'assurer que le CIUS et le M3S financent à la juste hauteur là, des transports. Là, on a un élément qui nous échappe.
Je suis d'accord avec toi, Éric, qu'il faudrait peut-être aller chercher ces renseignements-là et de voir quel est le financement que l'organisme reçoit actuellement. Yves, tu avais une question?
Oui, je comprends qu'on est dans un contexte difficile, mais j'aurais aimé que cette question-là soit soumise au comité de transport. Parce que c'est un type de service qui est proche de ce qu'offre la MRC. Et puis, il me semble avoir compris dans le passé que c'était un petit peu, ça venait un peu en dédoublement avec ce qu'on fait.
Pas en dédoublement. C'est qu'avant, comme Annick vous l'a précisé, avec notre subvention de transport général collectif, on pouvait donner un montant au transport d'accompagnement. Mais le MTQ a précisé des choses, c'est que maintenant, ce type de transport-là n'est plus accessible à partir des subventions accordées par le ministère des Transports. D'où la décision, puis corrige-moi Annick si je me trompe, d'où la décision du comité de transport à l'époque de couper le 30 000 $ qui était octroyé à partir du montant global de la subvention. Alors là, si tu dis ça devrait être le transport, ça veut dire qu'on va devoir le prendre dans nos fonds propres. Okay. À partir de la taxation qu'on impose. Bon. Donc, il y a quand même une recommandation, puis je pense qu'Éric l'a soulevé, c'est d'aller valider s'il y a du financement encore pour octroyer par la CIRS ou encore le ministère sur ce type de transport-là. Donc, on vous reviendra en juin. Et on pourrait vous donner ces renseignements-là et on prendra une décision finale quant à ce dossier-là. Ça vous va?
Oui.
C'est bon. On passe maintenant à règlement 239-14, concordance courte échéance. C'est Dominique.
Bonjour à tous.
Bonjour,
je suis ravi de vous parler. Concernant ce règlement d'emprunt, la résolution de concordance, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Bon, c'est un règlement d'emprunt là, qu'on avait fait le 19 mars 2014. On avait adopté une résolution de la CM06914 dans le but de faire des travaux majeurs, on appelait ça à l'époque là, de rénovation sur la piste cyclable. C'était un emprunt de 10 ans. Maintenant, il restera un 5 ans et un montant de 402 900 dans le fond, à obtenir un renouvellement de règlement d'emprunt.
Il n'y a pas de question, Manon on propose.
Éric, bon, Sagan.
Oui. Ah, Éric. Bon. Yes. On est généreux.
Au bout.
C'était quoi le montant d'emprunt au départ?
Une minute. Montant d'emprunt au départ. 917 400.
Quand même.
Est-ce que vous avez d'autres questions?
Oh, c'est assez, là, Dominique, avance.
Merci, t'es gentil. Règlement, bon, le point 9.6. Comme vous savez, là, on est allé en demande de proposition pour les taux d'intérêt. Donc, ce qu'ils nous ont proposé, c'est la financière Banque nationale avec un coût réel de 2,05935%. Pour là. Il faudrait un proposeur et un secondaire.
Christian propose.
Éric Sagan.
Merci, messieurs. Autre point, le 9.7, de la cycloroute. On vous a préparé une fiche projet qui résume les travaux qui seraient à venir. Donc, on a séparé ça en deux. La première phase qui est de remplacer deux ponceaux au kilomètre 11. On parle d'un diamètre de 1050 mm qui est sur le tracé de Québec central. Pour faire une histoire assez rapide, là, on a deux bails ou deux baux, si vous voulez. Là. À chaque fois qu'on remplace un ponceau, il faut toujours vérifier le bail si la responsabilité est MRC ou MTQ. À cet endroit-là, c'est la responsabilité est entièrement à la MRC, peu importe le diamètre. Donc, dans la phase 1, on parle de deux ponceaux à remplacer. Dans la phase 2, On parle de travaux d'entretien là, sur l'ensemble de la piste. À chaque début de saison, on a toujours des employés qui ont des anomalies puis qui nous soulèvent des choses. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour vous proposer ces travaux-là, on a décidé de vous présenter ça en deux phases avec un montant global, mais qui sépare en deux phases de travaux. Les ponceaux, ils étaient prévus en 2018 dans le cadre de certains travaux, puis on avait pris la décision de les reporter, là, étant donné qu'on avait atteint le maximum du règlement d'emprunt. Donc, ces travaux-là, puis vous le voyez un petit peu plus loin dans les documents, là, on a fait une fiche d'inspection de ponceau. En haut à droite de la fiche, on a comme encerclé le IEP, l'indice d'état du ponceau. Imaginez-vous là, qu'on est à l'école, la note parfaite, c'est 100 %. Bien, ces deux ponceaux-là ont une note de 6 sur 100. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une baisseur au niveau de la surface de roulement de la piste cyclable. Donc, un jour ou l'autre, il va falloir faire ces ponceaux-là. Les plans et devis étaient déjà faits. On les avait retirés des travaux en 2018. Maintenant, on s'est rencontré avec le comité aussi de pistes cyclables. On n'en était pas rendu à adopter une résolution et on a dû ajourner, mais n'empêche que c'est des demandes qui avaient été formellement demandées à la MRC là, de procéder dès cet automne à ces travaux-là. Donc, je vous parle de ces travaux-là. Je peux défiler. Là, la phase 1, on évaluait les travaux à 333 000. On vous a joint l'estimation par le service d'ingénierie de la MRC. Puis aussi, selon un rapport qui a été fait par nos responsables d'entretien, on vous a glissé quelques photos que vous pouvez voir. C'est des soulèvements, puis c'est vraiment dû à la sécurité des usagers ou des utilisateurs. C'est des bosses, c'est des trous qui font en sorte qu'il y a de l'intégration entre les sections de ponceau. Un jour ou l'autre, ces travaux-là. Est-ce que certaines personnes ont leur micro ouvert? Je regarde.
Oui.
Pour ne pas te pointer. Sarto aussi. Puis M. Christopher, ça ne vous dérange pas. De ce que je comprends, là, on s'entend moins. Ah, merci. Donc, c'est ça. Il y a différentes anomalies. Ça peut être un ponceau qui relève, qui fait comme un dos d'âme. Donc, imaginez-vous les gens qui font du rollerblade ou du vélo. Là, c'est des anomalies qui vont devoir être corrigées à un certain moment donné. Donc, c'est pour ça que le dossier vous est présenté aujourd'hui en avis de motion pour faire un règlement d'emprunt. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de présenter.
Dominique, j'ai une question pour toi. Je suis quand même impressionné. Deux ponceaux, 300 000. J'aime bien les six chiffres, là, puis les grands diamètres, là, mais quand même, là, peux-tu expliquer pourquoi un coût aussi élevé pour deux ponceaux?
Oui, bien, on peut repasser peut-être l'estimer très rapidement. Là. Vous voyez que, premièrement, l'endroit des ponceaux à réaliser, il faut quand même faut passer sur la piste ou chez un agriculteur pour accéder à ces diamètres, à ces ponceaux-là. Donc, c'est quand même des gros diamètres. On a fait le choix dans le passé qu'au lieu d'investir des sous chez des agriculteurs pour aménager des chemins temporaires, on est aussi bien de passer aussi sur la piste cyclable si on a à refaire des parties de travaux suite à la circulation des camions. On a mieux refaire notre piste que de payer des chemins à des agriculteurs. Sinon, il y a le déblai, il y a l'excavation, il y a le remblai, il y a la gestion des eaux pendant les travaux, il y a la réfection. Ça monte vite, Éric. Ça monte vite. C'est 1050. Puis là, on a fait aussi...
On a quand même tout près de 130 000 $ de ponceaux parce que ce que je comprends, c'est que tu as quand même des bonnes longueurs. Les ponceaux, là, 19,52 mètres puis 24 mètres, là, c'est pas juste en dessous de la piste cyclable que ça passe, là.
Non, mais c'est parce que aussi tu as l'entrée de la forme de cours d'eau aussi qui rentre, donc il y a quand même une certaine largeur. Okay. Oui, ils sont grands. N'empêche qu'on est allé aussi à l'endroit approprié. Là, on n'a pas juste mis un petit bout de tuyau parce que là, tu as le talus aussi pour qu'ils viennent bien se marier, si tu veux, au terrain existant. Il y a des agriculteurs de chaque côté, donc on est dans notre emprise. On remplace les longueurs aussi. Là, je pourrais regarder sur l'affiche là, d'inspection de ponceaux. En ce moment, on parle d'une longueur là-dessus. Le ponceau existant, il y a 21 mètres. Fait qu'on n'en profite pas pour agrandir. Là.
C'est bon.
Une question aussi, peut-être, Dominique. As-tu fini, Éric? Avais-tu fini? Dominique, quand nos ingénieurs évaluent ce genre de travaux-là, ils doivent tenir compte du fait que c'est pour une piste cyclable versus une route. Ils ne doivent pas faire des travaux similaires
une route où ils passent des autos et des camions? Sûrement pas.
Non, mais c'est une
bonne question. Conforte-moi, tiens.
Bien, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça va te réconforter, par exemple. En fait, quand on parle de tuyaux, par exemple, de béton, là, on veut s'assurer que l'épaisseur de la paroi est capable de supporter minimalement le poids du sol qu'on met par-dessus. Donc, avec une certaine profondeur, tu as déjà quand même un poids, un certain poids, juste en remblayant le matériel par-dessus. Puis, c'est des normes spécifiques. Là, ils font pas du béton plus cheap ou plus fort. Nous autres, il faut qu'on s'assure quand même que c'est sécuritaire et que ça dure dans le temps. Fait que veut pas, c'est les mêmes tuyaux qu'on met sur une route. Parce que l'épaisseur de matériel qu'on met par-dessus, ça a un poids par défaut. Ce qu'on fait dans certains cas, parce que c'est une excellente question, c'est que des fois qu'on y va avec un tuyau de tôle ondulé là, en acier, on peut mettre ça dans certains cas pour minimiser les coûts. Puis là, on a évalué cette option-là, puis sans trop m'élargir, là, quand la largeur du cours d'eau est quand même relativement large, il faut que tu viennes mettre, on appelle ça un box rectangulaire, là, c'est un rectangle en béton pour être capable de prendre la pleine largeur, parce que sinon, l'eau, elle cogne sur le côté d'un diamètre circulaire. Puis c'est là que l'eau peut passer à côté s'il est mal protégé, puis après ça, ça peut causer des problèmes. Donc là, toute cette histoire-là pour vous dire que dans ce cas-là, on a décidé de prendre un tuyau circulaire en béton, de l'enfouir plus profondément pour avoir une certaine largeur qui épouse le cours d'eau. Puis ça nous revient à peu près au même coût que pour un tuyau en acier, mais qui dure moins longtemps. Je ne sais pas si ça répond, parce que dans le fond, ce qu'on voulait dire, c'est que même si c'est une chaussée ou une piste cyclable, c'est quand même les mêmes paramètres, c'est les mêmes tuyaux.
OK.
À cause du poids du sol.
Merci.
Oui.
J'aurais une question, moi.
Vas-y, Bernard.
On met 75 000 piastres, la MRC, pour l'entretien de la piste cyclable par année.
Oui.
C'est vrai?
Je te le confirme.
Ça va-tu rentrer dans ce 75 000 piastres-là, l'emprunt qu'on veut faire? Ou si ça va être un montant supplémentaire de qu'est-ce qu'on paye déjà?
Oui, la question est bonne. C'est un montant supplémentaire à ce qu'on paye déjà. Sachez que dans le 75 000, oui, il y a des travaux d'entretien, mais on parle vraiment de l'entretien de base. On ne parle pas de travaux majeurs. Là, on parle vraiment de travaux majeurs. Dans le 75 000, là, oubliez pas, il y a le balayage, il y a le fauchage. Des fois, il y a des problèmes d'accumulation d'eau à certains endroits. On va avec une petite pelle faire une intervention. Tandis que là, ce qu'on vous propose, c'est des travaux d'entretien plus majeurs. Là, ce qu'on aimerait faire, c'est ramener à niveau notre piste cyclable. Il ne faut pas se mettre la tête non plus dans le sable. C'est un super bel actif, mais il est comme une route. Il déprécie pareil. Donc, on va avoir périodiquement besoin d'investir des sous à certains endroits si vous voulez conserver son niveau actuel ou son confort. Parce qu'il y a quand même la sécurité des utilisateurs aussi. Il y a des endroits où il y a des bosses, il y a des ponceaux qui relèvent. Bien, là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la peinture orange avec de la canne, la petite canne de peinture.
Non, mais ça veut dire que dans ce cas-là, il va falloir prévoir dans le budget, là, quand on fait notre budget, de prévoir d'augmenter le montant de 75 000 plus haut. Là, il va falloir faire une évaluation des besoins qu'on aura chaque année. Là.
Ah ben, c'est sûr qu'un jour, on irait vers un fonds d'entretien, là, un petit peu comme on est en train de faire dans d'autres services. Là. Mais vous voyez que c'est les mêmes mentalités. Là. Je pense à Eric, là, la gestion d'actifs, la piste cyclable, c'est un actif.
Ben, je supporte Bernard, c'est un méchant mal de tête, puis il va falloir commencer à réfléchir. Là. Les moyens financiers vont être limités à quelque part, lui aussi. Là.
Exact, puis je ne veux pas vous décourager, mais n'empêche que si on veut conserver un certain niveau de confort, ben, il va falloir continuer à investir.
C'est une infrastructure qu'on possède qui ne rapporte rien, là. Et oui, il y a certaines retombées économiques pour certaines municipalités, puis pour la MRC, bien d'accord. Mais il va falloir réellement évaluer les besoins qu'on va avoir pour l'entretien de cette cycloroute-là. Là. Ça n'a pas d'allure. Là.
Mon commentaire est bien reçu, Bernard, mais je pense que le préfet il veut intervenir.
Oui.
Je pense que la discussion sur ce point-là, elle n'est pas nouvelle. On l'avait déjà dès le départ parce qu'on savait que ce serait une infrastructure qu'on aurait à entretenir. Par contre, moi, je pense qu'on devra faire une réflexion sur, quand on parle de gestion d'actifs, quels sont les montants nécessaires, comme un peu vous faites pour vos chemins municipaux, de dire c'est quoi les montants que j'ai à investir dans l'entretien. Et quand tu arrives avec des projets spéciaux comme ça, de cet ordre-là, alors il faut penser au remboursement de la dette. Puis j'en discutais rapidement avec Annick. Est-ce que ça, c'est justement, ça ne serait pas des projets qu'on pourrait inclure dans un, en tout cas une partie du financement à partir de l'enveloppe du FDT ou du fonds éolien, si on considère que c'est une infrastructure régionale et que c'est un projet qui sert à tout le monde. Ça fait partie, je ne vous donne pas la solution, là, mais je vous dis qu'il faudra peut-être le considérer en fonction de notre décision de dire on continue à entretenir cet équipement-là ou si on arrête, on sait qu'il y aura une durée de vie pour l'équipement. Alors, ce que je vous propose, c'est de dire que ça pourra être un sujet, un élément de discussion et de réflexion dans tout ce qu'on aura à faire. Parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on devra faire, quand on le disait tantôt, à partir de nos fonds, on investit dans quoi notre enveloppe régionale? Quels sont les projets prioritaires pour la MRC? Puis est-ce que ce type de projet-là est justement une infrastructure qu'on doit maintenir ou continuer à se la payer sur notre, nos comptes, nos cotes-parts annuels?
Mais moi, Clément, je pense que la première étape, là, c'est quand même d'évaluer... D'évaluer c'est quoi les coûts d'entretien de la piste là, annuellement là, aux deux ans. Là. C'est, moi, je pense que c'est ça la première étape. Après ça, on regardera c'est quoi comment on finance ça. Là. Mais c'est sûr que lorsqu'on réalise quand même, c'est des gros montants. Puis faut savoir ce qu'on s'en va avec ça. Là.
Avant de passer le micro à Dominique, c'est comme nos chemins. Il y a toujours de l'entretien annuel normal qu'il faut faire. Par contre, est-ce qu'on se donne un plan de dire qu'il y aura toujours des parties qui vont nécessiter, comme là on parle de ponceau, où il y a une durée de vie. Et on a 64 kilomètres de pistes cyclables. Et 74, oui.
74.
De pur bonheur. Alors ça, c'est sûr. Puis quand on l'a pris, il y avait eu un examen, il y a bien des ponceaux, parce qu'il y a une section aussi que... Dépendant des diamètres, la MTQ est responsable, tandis que quand on part d'une section à partir de Saint-Anselme vers Saint-Henri, c'est à notre charge parce que ce n'est pas la même voie ferrée. Alors, Dominique, pour compléter.
Oui, puis toutes les réflexions que vous avez en lien avec ça, là, ben Pascal, je ne sais pas si tu veux amener un point, ton micro est fermé. Là.
On parle de prévoir un budget, mais ce serait quoi un budget annuel raisonnable pour l'entretenir?
Bien, justement, cette question-là est tout à fait louable. Là. Moi, ce que je vous propose, là, c'est de commencer à faire un plan de gestion d'actifs avec cet actif-là qui nous appartient. On a déjà l'état des ponceaux que le ministère nous a fourni au début. Là. On a tout l'état des ponceaux qui ont été faits, qui datent déjà de 2008, mais au moins, on a une idée. On a un LIDAR qui est en train de se faire avec le programme que vous nous avez autorisé à appliquer, là, de la FCM. Fait que le LIDAR, lui, va nous servir à évaluer le drainage. Il nous reste juste la chaussée à analyser. Puis là, le rapport qui a été fait à l'interne par nos employés nous donne quand même des bons indices des endroits les pires. Fait qu'après ça, on va pouvoir vous sortir un plan sur 5 ans. Puis dire, bien, voici dans les 5 prochaines années. Puis là, on va mettre de côté là, les frais, on va vous les mettre dans une catégorie, mais tout ce qui est fauchage, balayage, là, c'est des frais d'entretien courant. Mm-hmm. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est les gros travaux. Là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la prolonger? Puis ça, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous le dire, mais c'est sûr que quand on va avoir le plan de gestion d'actifs, c'est à ça que ça va servir. Là, vous allez pouvoir avoir un plan quinquennal, puis dire, bien, voici le montant, puis comment on s'y prend pour aller chercher ces sous-là? Quel endroit qu'on fait l'argent? Je pense que c'est là que...
On est mieux d'attendre d'avoir ce plan-là avant d'investir encore 600 000 cette année. Si dans le plan, il nous prévoit qu'il faut mettre, exemple, 3-4 millions pendant 10 ans, on est mieux d'attendre avant de mettre 600 000 parce que là, on a emprunté 917 000 il y a 5 ans. Il reste 403 000 encore à payer. On veut emprunter 600 000. Oui, au début, j'étais un de ceux qui étaient à compte le bicyclage. Je disais que c'est un trou sans fond. Je ne veux pas me vendre, mais je pense que je vais avoir raison. J'ai comme l'impression de mettre de l'argent. Puis contrairement à ce que Clément a dit, comparable à nos routes, une route, tu n'as pas le choix, il faut que tu passes par la route pour y travailler. Parce qu'une piste cyclable, c'est un luxe pour une MRC. Puis moi, je serais plus en accord de payer pour une étude de retombée économique. Qu'est-ce que ça pourrait rapporter Si on sait que ça rapporte, par exemple, 1 million à MRC, c'est vrai qu'on peut investir, mais si ça rapporte 100 000 à MRC dans l'ensemble de la MRC, je pense que les choix pourraient se poser là-dessus avant de dépenser 600 000 encore une fois à soir. Moi, je pense qu'on serait mieux de reporter ce sujet-là à une autre réunion.
Est-ce que je peux intervenir? Oui, vas-y, Manon.
Denise ou Manon?
Manon, après Denise.
OK, ben moi, je fais partie du comité de la piste cyclable, puis je veux dire, ce soir, je peux peut-être comprendre la surprise, mais en même temps, il faut être conscient que c'est un actif. En passant, moi, je ne perçois pas que c'est un luxe, là, je ne veux pas estimer, mais moi, je perçois que c'est un bien collectif dont il faut prendre soin parce que il nous permet de nous mettre sur la map, puis, parce que là, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui passent là-dessus, mais c'est un bien qui vieillit comme tout bien. Et là, on est rendu à l'étape de l'entretenir. Et moi, je pense au contraire que si on retarde les travaux qui ont déjà été reportés et retardés, ça peut juste nous coûter plus cher si on retarde. Puis en plus, ça peut représenter, je ne sais pas, là, c'est Dominique qui peut répondre à ça, mais je me questionne au niveau du danger en ayant vu les photos qui nous ont été présentées. Alors, c'est mon opinion. Je vais laisser Dominique réagir à ça. Mais sincèrement, là, à un moment donné, il faut passer à l'action. Puis moi, je suis d'accord, par contre, qu'il faut faire une planification de l'entretien et savoir un peu plus, 5 ans, où est-ce qu'on s'en va. Là.
Martin, oui.
Dominique, moi, j'aimerais savoir, est-ce que les ponceaux sont en état, tu disais tantôt que c'était 6 sur 100, est-ce qu'ils sont en état de se détruire dans le courant de la prochaine année?
C'est une super bonne question, Martin. Puis j'ai de la difficulté là, avec ma boule de cristal. Mais il y a une chose que je peux te dire, par exemple, c'est que les anomalies qu'on a en ce moment, ils nous disent que le ponceau, le terme, là, il peut dézipper. Donc, on a remarqué dans les 3 dernières années, puis même, je te dirais, je pense que j'ai commencé à aller là autour de 2014. Les années passent vite. Mais n'empêche que moi, les signes qui me font peur, c'est que la chaussée, imagine-toi qu'elle était plane au début, puis là, elle commence à baisser sur une certaine longueur. Donc, quand tu passes en vélo, il y a une petite baisseur. Moi, ce que ça me dit, c'est que le tuyau commence à écraser. C'est pas bon signe. Est-ce qu'il peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 1 an? Je suis pas capable de te le dire, mais les signes sont là pour une réparation. Donc, pour répondre à Manon, bien, c'est la gestion du risque, hein? Si on n'intervient pas puis qu'on est prêt à prendre avec le risque des accidents, moi, je peux vous dire une chose. Je n'ai pas vraiment de réponse de préconçue par rapport à ça, mais dans le fond, faites juste comprendre que vous avez à gérer le risque. En ce moment, on met de la peinture avec des cannes. On peut continuer à faire ça encore cette année.
Bien, écoute, moi, le pourquoi je pose la question, Dominique, là, si tu me dis que les ponceaux sont en état dangereux, c'est une affaire. Mais s'ils ne le sont pas pour qu'on ait le temps de se positionner, moi, je pense qu'on devrait prendre le temps de le faire. Parce que ce soir, là, Pascal l'a très, très bien énuméré, là, Dominique, ça fait beaucoup de sous. Moi, je pense qu'il faut l'investir, mais on va se faire une stratégie et on va avoir une étude sur l'ensemble de notre piste pour être capable d'arriver avec un chiffre. Parce qu'on se souvient quand on est sorti de 70 000 ou 75 000 que Bernard parlait, on disait que c'était à peu près ça les coûts d'entretien de notre machine, de notre piste cyclable. Mais là, on est rendu à un autre stade. C'est comme avoir acheté un char neuf, là, qui n'était pas neuf tout à fait. Là, on est rendu à 150 000 km, on commence à le réparer. Là. La piste cyclable, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut se faire un plan d'action. Puis moi, ce soir, je ne suis pas à l'aise, honnêtement, de voter le 600 000 que ça prend. Là. J'aimerais mieux qu'on se fasse une stratégie.
OK.
J'aimerais intervenir.
Oui, Yves.
Alors, il n'y avait pas d'indice. Dominique l'a bien expliqué tantôt. Ce n'est pas une surprise. Ces investissements-là sont quand même identifiés depuis une couple d'années. Et bon, il nous parlait d'un risque de tuyaux qui pourrait se dézipper. Donc, on a des risques de détérioration. Et le fait de retarder ça, bon, OK, c'est une dépense qui peut faire peur, sauf qu'en même temps, on est en train de se dire qu'on n'est plus certain de vouloir de cette infrastructure-là dans Bellechasse, qu'on n'est plus certain de vouloir... là, c'est plus seulement de l'entretien, là, c'est de la reconstruction par endroit. Alors, je pense que puis d'attendre un an de plus, là, on va avoir une étude là, du LIDAR là, qui va venir nous dire l'état de cette piste-là. On a pris une direction justement pour du développement au niveau de cette piste cyclable. Et sachant que, bon, il y a un lien qui s'en vient avec la Beauce bientôt aussi. Alors, pourquoi reculer? Je pense qu'on devrait avancer puis y aller. De toute façon, c'est des choses qui sont à faire parce qu'elles sont dangereuses pour un avenir proche de la piste cyclable. Alors, moi, je pense qu'on devrait y aller.
Si Germain, excuse, Martin, Germain.
Oui, si je peux compléter, Yves, là, écoute, tu parles à quelqu'un, là, qui la piste cyclable, il y croyait, on le fait, là. C'est nous autres qui l'a mis au monde, là, les plus vieux maires, là. On l'a mis au monde pour y croire, là. Moi, je suis un peu comme Passion FM, c'est un joyau dans Bellechasse, ça, la piste cyclable. Mais moi, je crois, honnêtement, que ça prend une stratégie. On a déjà statué le 70-75 000 pour l'entretenir, puis il faut faire l'autre partie. Puis moi, je ne dis pas qu'il faut attendre un an, Yves, c'est pas ça. Il faut prendre du temps, par exemple, pour l'analyser bien comme il faut. Après ça, on arrivera à structurer.
Il y avait Germain.
C'est OK. Il y avait Mme Denise qui voulait peut-être parler tantôt avant moi.
Denise, ton micro. Denise, t'as encore ton micro qui est fermé. Oui.
Je n'ai pas demandé la parole. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour penser que j'avais quelque chose à dire, mais pour une fois, je viens de dire.
Tu t'es gratté l'oreille droite, ça doit être ça. Okay.
OK. Ben c'est ça. Je pense qu'on va avoir une grosse réflexion à faire au niveau, là, on a parlé tantôt là, avec Passion FM, c'est quoi qui est régional? Exemple, la piste cyclable, il y a un budget annuel de 75% de 75 000 d'entretien. Ça, c'est à même nos cotes-parts. Il n'y a pas de problème, chacun paye sa cote-part. Lorsqu'on arrive à des travaux comme ça de 600 000, puis qu'on ne peut pas venir mettre ça sur les quatre parts. Parce que là, sur les quatre parts, ça veut dire que pourquoi Saint-Henri en paierait 16 % entre guillemets? C'est un bien là, qui est vraiment régional. Il va falloir faire une répartition. C'est pour ça que notre réunion là, du FDT, là, ça commence à presser, je pense. Justement, pour déterminer c'est quoi nos affaires qui sont régionales, c'est quoi nos affaires qui sont locales.
Bernard?
Mais mon intervention, moi, tantôt, c'était pas de dire de ne pas faire les travaux, là. Moi, c'était juste pour vous mentionner qu'à une certaine époque, on mettait 25 000 piastres, exemple, pour l'entretien de la piste cyclable. Puis à un moment donné, on s'est aperçu que c'était pas assez. Fait qu'on l'avait upgradé à 75 000. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il sort plein d'affaires de boîte de surprise, là, tu sais, qui nous arrivent avec des gros montants qu'on doit réagir. Et je suis content que Dominique nous dise qu'il va faire la gestion des actifs sur la piste cyclable, parce que là, on va avoir un portrait réel de l'État. On va pouvoir planifier à long terme les investissements qu'il va falloir faire pour l'entretien de notre piste cyclable. Mon intervention n'était pas de dire, c'était pas de dire de ne pas faire les travaux, là.
Dans le fond, ce qu'il faut se dire, c'est que les investissements que nous propose, parce que moi, je dis que c'est un investissement, c'est pas une dépense, c'est pas inutile, parce que, dans le fond, on a décidé qu'on avait un équipement régional, et je pense que c'est pas juste en termes de rendement économique, de dire elle nous rapporte 100 000 ou elle nous rapporte 200 000. Là. Si on fait le calcul de même, là, moi, je pense qu'on ne fait pas le bon calcul. C'est un équipement qui est au service de notre population, qui est bon pour nos jeunes, pour nos moins jeunes. Les gens s'en servent comme équipement de loisirs. Alors, il faut aller plus loin que ça. Je pense qu'on la désirait. Puis la meilleure preuve, c'est qu'il y a des MRC qui sont en train de se doter des projets, mais que les projets regardés dans le coin de la Beauce, Robert Clich est en train de regarder un équipement, puis on parle de 13-14 millions. Nous, on a mis en place un équipement qui a coûté 4 millions pour 74 kilomètres. Alors, c'est tout ça. Mais moi, je suis d'accord avec Bernard et les autres, il faut absolument se donner un plan d'investissement à long terme. Mais il y a une chose que je comprends, c'est que les investissements qu'on nous propose ce soir, on a beau les reporter, mais il y a une urgence quand même à les réaliser. Puis ils vont faire partie de la somme totale. Donc, de les retarder, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure idée. Par contre, de demander à notre service de dire « Donnez-nous une planification à long terme pour qu'on sache où on s'en va, puis on a-tu des choix à faire, puis quels sont ces choix-là? » Oui, Pascal?
C'est quand que cette planification-là pourrait être prête? C'est quelque chose qui est long, qui est court?
Dans le fond, le plan de gestion d'actifs, là, en ce moment, nos ingénieurs dans le service d'ingénierie sont en train de terminer une certification. Là, c'est en lien avec les objectifs de service qui étaient entérinés là, par les élus. On est en train de se former à avoir une certification en gestion d'actifs pour être en mesure de monter des plans de gestion d'actifs partout dans Bellechasse, dont à la MRC. Ça ne se fait pas en claquant des doigts en ce moment. L'intrant qui nous manque, tantôt je vous parlais, l'état des ponceaux, on les a. Ça date de 2008 du ministère des Transports. On va avoir le drainage avec le LIDAR parce que le LIDAR, il va nous donner toute la composition du terrain puis à quel endroit que les eaux se dirigent. Il nous manque la qualité de la chaussée. La qualité de la chaussée, ça monte à peu près une quinzaine de mille l'affaire d'un bout à l'autre. Donc, il faut investir. Pour faire un plan de gestion d'actifs, il faut qu'on ait des données. Pour avoir des données, il faut payer pour des données. Là, par exemple, il y a le deuxième volet de la FCM. Là, Éric en a parlé tantôt. Ça, on pourrait peut-être adhérer à ça pour se faire subventionner le confort de la chaussée. Fait que si on attend après le programme de subvention, il faut attendre en 2021. Puis il faut prendre le temps de le monter, le plan. À date, on a fait zéro plan de gestion d'actifs, puis c'est quelque chose qui commence à être à la mode. Notre calendrier, nous, il est plein, donc c'est sûr qu'il faudrait que ça s'en vienne. Ça ne serait pas cet été, puis ça ne serait pas en un mois. Là. Plan de gestion d'actifs, ça l'implique de monter un comité, ça l'implique de vous rencontrer, de regarder jusque c'est quoi le confort qu'on veut garder. Est-ce qu'on veut avoir une piste cyclable à un niveau de satisfaction à 100% ou à 70 ou à 60, on est correct pour tout le monde. Donc, tu sais, il y a quand même pas mal de théories là-dedans. Il ne faut pas que ça soit du pelletage de nuages. Puis ça, c'est le danger des fois que la gestion d'actifs. Fait qu'il faut juste prendre le temps de le faire, mais ce n'est pas à très court terme. Là. On ne sera pas capable de vous sortir ça pour cet été-là. Ça sera au courant de l'année prochaine.
OK.
Donc, est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on prenne une orientation ou une décision quant au complément proposé? Oui.
J'en aurais une.
Sébastien, Luc.
Elle peut s'adresser aussi à Dominique ou à vous, M. Filion. Là. Juste me rappeler, la piste cyclable, quel âge qu'elle a?
C'était construit en 2008.
2008 qu'on a terminé, oui.
À 12 ans.
OK.
12 ans.
Une chaussée, donc, elle a une douzaine d'années et déjà, on est rendu à changer des ponceaux.
Oui, mais bon, vas-y, réponds. Ouais,
ben, encore une fois, Sébastien, c'est toutes des bonnes questions. Les ponceaux, là, dans le fond, quand on a hérité de l'emprise du ministère des Transports, là, elle venait avec déjà les ponceaux qui étaient là, qui dataient des trains. Fait que c'est sûr que ces ponceaux-là, ils ont une durée de vie.
OK, puis, c'est pas des ponceaux qui ont été installés lors de la mise en place de la piste là.
Non, puis tu sais, je sais que vous voyez mon visage souvent pour venir chercher des sous puis vous proposer des règlements d'emploi pour des travaux. Mais la première fois que je suis venu au conseil avec l'ancien conseil, on venait de refaire des travaux à Arma, là, de creuser des gros fossés pour ceux qui s'en rappellent. Ça, c'est des travaux d'amélioration. Ce n'est pas parce que la piste était plus bonne, c'est qu'on venait répondre à un autre problème. Fait que des fois, on mélange plein de choses. Là. On a fait des travaux d'amélioration. Là, on est rendu à l'entretien. Fait que 2008 à 2020, elle a 12 ans. Une chaussée, ça a une durée de vie de 25 ans. Fait que c'est pas fini ce qui s'en vient. D'autres ponceaux aussi, à un moment donné, là, on a toute une durée de vie. Là. Fait que c'est pour ça que la nécessité, le message qu'on vous lance, plan de gestion d'actifs, ces travaux-là, ils s'amélioreront pas l'année prochaine.
Et j'ai une deuxième question. Je voyais dans ton descriptif de travaux à réaliser là, à la page 170 de notre document qu'il y avait des ponceaux qui appartenaient au ministère.
Oui.
Et qu'ils étaient à changer. Jusqu'où que le ministère a la responsabilité de les changer?
C'est vraiment le diamètre dans notre entente, dans notre bail.
Ouais, jusqu'où qu'eux autres vont dire oui, OK, c'est beau, on va les changer, ou ils peuvent dire non.
Bien, je vous dirais qu'à date, ça nous est arrivé une fois dans la portion d'Arma qu'on a refait une couple de mètres linéaires de chaussée. Puis on a intercepté un ponceau qui était sous la responsabilité du MTQ. On les a abordés puis ils nous ont fait un chèque. Parce okay. qu'ils ont regardé le prix puis ils ont dit, à ce prix-là, on aime mieux le faire par votre entrepreneur local que de prendre des gens du ministère pour se déplacer.
Il y a eu des interventions faites à Saint-Maréchal aussi par le ministère des Transports.
Oui, mais ce n'était pas dans le cadre des travaux qui étaient pilotés par nous. C'est eux qui prennent l'initiative, puis ils reviennent à certains endroits là, dans leur planification annuelle. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de reprendre contact avec les gens du ministère, puis ce qu'on veut mettre sur pied, là, c'est de commencer à les rencontrer une fois par année, comme c'était écrit dans notre bail, puis commencer à rouvrir le corridor de discussion pour essayer de départager comment qu'eux gèrent le drainage puis qu'est-ce qu'on peut leur envoyer là, comme travaux.
Je peux te poser une question aussi?
Oui.
Dominique, oui. Question peut-être de rallier les gens là, autour de ce sujet-là. Dans ce que vous nous présentez comme travaux là, pour un montant total de 600 000 au-dessus, oui. Y a-t-il des portions qui pourraient retarder en attendant d'avoir justement le fameux plan qu'on souhaite avoir là, en 2021-2022 peut-être? Là, en tout cas. Peut-être que si on parlait d'un projet de 300 000 là, au lieu de 600 000 que ça, ou de 400, je ne sais pas, je suggère ça là. Des choses qui pourraient attendre.
Oui, bien, ben, c'est pas fou comme commentaire. Il y avait la phase 1 et la phase 2. La phase 1, ça, c'est les deux ponceaux. Là, moi, je crois qu'on est rendu à la croisée des chemins à Saint-Anselme, là, celui qu'on parlait tantôt avec Yves, là, qui a un 6 sur 100. Ça serait une priorité pour cet automne ici. Puis dans la phase 2, on pourrait débuter ces travaux-là, soit quelques-uns les plus urgents cette année ou soit l'année prochaine. Puis on pourrait regarder comment ils continuent à se comporter. C'est sûr que les ponceaux qui font comme un dos down, je trouve ça quand même dangereux pour des utilisateurs d'une piste. Mais ils ne sont pas toutes comme ça. Peut-être qu'on pourrait faire un filtre dans cette enveloppe-là, puis seulement les prioriser. C'est sûr qu'il y a des trous à côté de la piste. Un jour, ils vont venir, mais on n'est peut-être pas obligé d'échanger là, mais ils sont dans l'enveloppe. Parce que des fois, d'aller chercher un règlement d'emprunt, tu es mieux de prendre l'argent, la réserver, puis après ça, de la prioriser. Tu n'es pas obligé de la dépenser au complet. J'essaie de faire une priorité. Si c'est votre orientation, de dire, peux-tu aller seulement dans ceux qui sont vraiment prioritaires pour la sécurité des usagers sur la surface de roulement, on peut peut-être en enlever quelques-uns.
Ça fera partie de la gestion de nos actifs qu'on va faire, ça, dans le fond, là.
Oui. Par contre, moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être de faire le règlement d'emprunt parce que si jamais il se produit quelque chose, que ça devient une urgence à réparer, bien là, on aura le montant d'argent prévu. Mais comme le dit Dominique, si on n'en a pas besoin, notre priorité, ce serait peut-être la moitié du montant cette année. Puis l'année prochaine, ça nous permettrait d'avoir une analyse plus complète comme Luc vient de nous le présenter, là, nous le proposer. Je pense que l'idée est bonne, mais au moins, le règlement d'emprunt, tu n'es pas obligé de dépenser tout l'argent que tu as demandé. Alors, tu ne l'auras pas, puis ton montant est toujours réservé. Fait que s'il y a une urgence, il est là, mais on s'en servira pour une moitié du montant pratiquement l'an prochain. Est-ce que ça rallierait les gens? Un peu dans le sens que Luc nous a proposé. Est-ce que Luc, ça t'irait?
Oui, moi, ça me convient.
Oui,
Bien, moi, règlement d'emprunt, mais il faut savoir qui paye et comment on le paye.
Et voilà, ça ne change rien, Clément. Si on fait le règlement d'emprunt total, mettons, là, on est aux semaines d'été, les travaux, là, ça ne change rien. Au bout de ligne, il va falloir payer pareil.
Non. Le règlement d'emprunt que tu fais, là, 720 000, si tu as fait des travaux juste pour 300 000, tu vas aller faire ton financement. Tu n'es pas obligé d'aller emprunter toute ta somme. Tu empruntes pour la partie que tu as réalisée. Et ce sera un autre emprunt que tu auras à faire auprès de ton institution financière quand tu feras l'autre étape.
Parce que ça va quasiment aller en 2022. Parce que quand on réalise les travaux,
ça fait un genre de marge de crédit?
Ben, c'est que la possibilité d'aller chercher l'emprunt final, la partie restante, tu l'as. Tu n'es pas obligé de te faire autoriser ton règlement d'emprunt. Il est là. Donc, il y a des règlements d'emprunt à un moment donné que vous empruntez pour donner un chiffre 500 000, tu fais des travaux pour 400, l'autre 100 000 reste là, puis à un moment donné, vous dites j'en ai pas besoin, puis tu fermes, tu disposes de ce montant-là. Là. C'est arrivé à toutes les municipalités, ça.
Oui, mais il faut que tu prévoies pareil ton paiement, là. Même si tu ne dois pas besoin, il faut que tu prévoies ton financement pareil. Là.
Oui. Bien, tu peux mettre une clause, Germain, qui dit que dans le fond, c'est sûr qu'il faut toujours dire qui va payer. Tu peux dire, comme on fait dans nos règlements, il y a une clause, c'est la taxation, donc une quote-part qui va être imposée et applicable à ça en diminution, toute contribution, par exemple, si on décide de mettre du FDT ou du fonds éolien pour payer ce montant-là. Mais là, actuellement, étant donné qu'on n'a pas pris notre décision, la question ce soir, c'est de dire, est-ce qu'on passe tout de suite notre règlement d'emprunt ou si on attend? C'est ça, là. Parce que si vous décidez qu'on doit attendre, bien, ça veut dire que vous le savez, le temps d'approbation d'un règlement d'emprunt, c'est rendu pratiquement 2 mois. Ça veut dire que si on veut faire les travaux, une partie des travaux cet automne, mais si Dominique dit, bien, moi, je peux attendre, il n'y a pas de problème.
Ah, puis, je vous dirais que le but, ce n'est pas de vous presser à prendre des décisions. Le seul avantage qu'on voyait d'en parler aujourd'hui, c'est qu'on profite de la relance économique, peut-être d'avoir des prix. On voulait sortir en appel d'offres. Nos plans et devis sont déjà prêts. Fait que si on sort déjà en appel d'offres à partir de la semaine prochaine pour des travaux à l'automne, on risque d'avoir des meilleurs prix. C'est un souhait, ce n'est pas une obligation. C'est vous autres qui prenez la décision.
C'était juste pour... C'est l'élément sécurité, moi, qui m'acharne là-dedans, parce que c'est notre service d'ingénierie qui nous amène ça, qui l'a évalué, tout ça. Moi, c'est l'élément sécurité qui va faire foi de tout, là. Je comprends le financement, tout ça, je suis d'accord avec ça. Oui. Ça aurait peut-être été dû, il aurait fallu prévoir ça, là, au lieu que ça arrive à soir comme ça. Mais ça reste qu'on est rendu là, il y a une sécurité à assurer pour les citoyens, parce qu'avoir une poursuite, ce ne sera pas bien, bien mieux non plus. Surtout qu'on sait que c'est dû s'il arrivait quelque chose, là. Alors, moi, en tout cas, j'aimerais ça entendre Dominique là-dessus, à savoir est-ce qu'on peut vraiment reporter ces travaux-là sur le plan sécurité?
Donc, Dominique?
Ta responsabilité professionnelle.
Ben, tu sais, c'est ça. C'est sûr que la raison pour laquelle je vous amène ça ce soir, puis c'est vraiment l'enjeu de sécurité que Manon a parlé. Moi, si je vous parle de gérer le risque, j'aimerais bien mieux qu'il n'arrive pas de problème. Fait que moi, c'est sûr que mon avis, c'est si j'ai de l'argent à Monopoly, puis je me dis oui, OK, est-ce que tu veux y aller? C'est certain. C'est certain, là. T'sais, parce que ce qu'on vous a sorti aujourd'hui, c'est des endroits avec des dos d'âne, des ponceaux qui relèvent, des bosses. Ce qui est apparent, c'est la surface de roulement. Là. On y va pas juste pour faire une belle amélioration, puis tant qu'à y être, on va faire ci, on va faire ça. Là. C'est vraiment les endroits les pires, là. Pour la sécurité des utilisateurs. J'ai de la misère à aller contre ça, là.
Donc, vous avez la réponse qu'il y a quand même
un risque. Des travaux. Dominique, hein? Il y a des travaux prévus pour l'automne. Ça serait quand à l'automne?
C'est toujours avant la fermeture de la piste parce que ce qu'on veut faire, c'est nuire. On veut éviter de nuire aux utilisateurs. Fait qu'on fait toujours. C'est juste avant, juste avant le gel, là. Le plus tard possible, là. Septembre, là. Octobre, là. Dans ce coin-là. Là.
Donc, si on est pour les faire juste à l'automne, là, on ne peut pas attendre un peu, puis au pire, quitte à les faire au printemps prochain avant l'ouverture de la piste cyclable? Ils vont rouler dessus tout l'été quand même, là, ce que je comprends. Là.
Oui, mais juste avant l'ouverture, ça ne te donne pas beaucoup de temps. Là.
Ben c'est ça. Je te dirais que traditionnellement, on fait toujours ça à l'automne parce que le printemps, le temps que la neige dégèle, le monde sont déjà dessus. C'est comme si je commencerais des travaux aujourd'hui, par exemple. C'est peut-être là 3 semaines, 1 mois. Le temps que le pavage arrive, ces choses-là, là, on vient brimer une clientèle de pistes cyclables. Tandis qu'à l'automne, ça commence à être plus froid. Il y a moins d'utilisateurs. Toutes les années, là, on essaye de pousser ça le plus tard possible. Tous les choix sont bons. Là. Tout se fait. On pourrait le faire, si c'est ce que vous voulez. Mais idéalement, on choisit toujours l'automne.
Est-ce que je peux intervenir 30 secondes? Là, je pense qu'il y a plusieurs points là, qui sont traités à soir. Là. Je vais d'abord répondre à Pascal. Là. Écoute, c'est pas un éléphant blanc. C'est un éléphant qui a faim. OK? Je peux t'en parler. J'ai une jetée qui a encore plus faim que ça. C'est à coup de millions. Alors, c'est un puits sans fond. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis il devrait y avoir une réflexion sérieuse à savoir si on regarde une infrastructure. Et là, toutes les réponses sont bonnes. La question se pose comme pour à Saint-Michel, pour une jetée qui coule dans le fleuve et qui a besoin de beaucoup de souris pour nourrir l'éléphant. Bien, la piste cyclable, il y aura un choix. Mais actuellement, on l'a. Puis, il faut prendre un emprunt parapluie pour couvrir les réparations d'urgence. Ça ne veut pas dire, puis je suis d'accord avec Clément, ça ne veut pas dire qu'on va flamber le montant demain matin. Puis, peu importe, là, je vais vous dire sincèrement, avec l'ouverture, là, le déconfinement, tout ça, il y en a plusieurs qui ont faim, puis je ne suis pas sûr que même cette année, même si on voulait les faire, que les entrepreneurs vont être au rendez-vous pour les faire. Alors, on est mieux d'être à titre préventif, on est mieux d'arriver de démontrer qu'on est proactif et si jamais on avait un problème puis que le risque jouait contre nous puis qu'on perdait avec un double 1 au poker sur la piste cyclable, ben au moins, on pourra démontrer qu'on a pris tous les moyens pour prévenir la faute. Mais c'est un éléphant qui a faim. Et puis là, 600 000, à mon avis, c'est juste un hors-d'œuvre. C'est mon opinion personnelle. La réflexion devra être beaucoup plus importante. Et malheureusement, tout se quantifie et tout s'évalue financièrement ou socialement. Alors là, je pense qu'on devrait arriver, puis on peut en parler toute la nuit, là. Super fin, sinon je vais me chercher un snack de minuit, là. Puis avec des chips et un peu de bière, puis on va pouvoir jaser. Là. Mais là, je pense que là, procédons. Mais c'est sûr que ça fait mal au cœur. Moi, peut-être le seul point que j'ai, c'est que c'est toujours l'effet de surprise. Hein? On m'arrive encore avec un 300 000, puis un 230 000, fait 610 000. C'est sûr que c'est un crève-cœur. À toutes les rencontres, c'est quasiment ça que je vis à MRC. C'est whoop, boom, Jack in the Box. Ça, là-dessus, là, je pense que vous me connaissez. Je pense qu'il y a moyen de prévoir la pilule plus vite que ça. Ça, là-dessus, je donne une raison à tout le monde. Pour le reste, ben, c'est un éléphant, peut-être gris pâle, là. Je sais pas, je voudrais la couleur. C'est assez.
Je comprends ce que tu veux dire, sauf qu'à un moment donné, c'est où qu'on va se dire qu'on arrête de payer? Si on en met 600 000, on se dit, ben là, il est trop tard, on va toujours continuer, toujours continuer, toujours continuer.
Mais ça, je pense que autour de la table, moi, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui seraient prêts à dire on met fin à notre piste cyclable. Je pense pas qu'on soit rendu là, là. Il y a une question de dire ben, comment nous coûte cet équipement-là? Comment on répartit l'investissement dans le temps? On peut-tu prévoir, comme Éric vient de le soulever, est-ce qu'on peut pas faire des prévisions à long terme? Mais à soir, ce qu'on a à décider, notre service d'ingénierie nous soumet quand même une problématique qui peut être problématique dans le sens de la sécurité des utilisateurs. Donc, moi, ça devient crucial. Le fait d'adopter le règlement d'emprunt, c'est juste une sécurité. Si on fait les travaux à l'automne, si vous voulez vous garder une marge de manœuvre, on reviendra pour autoriser, parce que tu peux faire approuver ton règlement d'emprunt, mais tant que tu n'as pas autorisé la réalisation des travaux, il n'y a aucune scène qui sort de nos coffres. Donc,
le projet de résolution, là, on pourrait le passer en
résolution. C'est donc ce qu'on dit. On va chercher le montant pour financer si vraiment on décide de faire des travaux cet automne. Il y a une proposition qui est sur la table et qui nous semble intéressante de fractionner en deux ces travaux-là sur deux années, puis même l'année prochaine, de revoir s'il y a urgence de réaliser ça ou si on peut le reporter dans le temps. Mais il faut se dire que ces dépenses-là ou ces investissements-là, il va falloir les faire. Si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine ou dans deux ans. Mais plus on attend, plus on court un risque.
Je propose qu'on aille au vote.
On va. Donc, ça prendra une proposition puis de voir ceux qui s'opposent.
Ben moi, je le propose, là.
Donc, on donne avis de motion dans un premier temps, puis on verra s'il y a opposition. Donc, Manon, es-tu prêt à donner l'avis de motion? Donc, Manon, donne l'avis de motion. Et là, on passe à l'adoption du projet de règlement. Donc, c'est là, s'il y a opposition au projet de règlement, ben, on arrête ça là. Donc, qui propose le projet de règlement?
Yvon propose.
Yvon?
L'appuyer, Christian.
Christian l'appuie. Quels sont ceux qui s'opposent à l'adoption du projet?
Moi, je vais voter contre.
Pascal vote contre. En as-tu d'autres?
Oui.
Germain?
Germain n'est pas à l'aise parce qu'il ne sait pas qui va payer.
Ben.
Tu vas payer sa quote-part.
Ben, c'est un peu ça que j'ai compte parce que c'est un équipement qui est régional.
Ben, c'est ça.
Oui, mais quand on paye ses quote-parts, c'est la région qui paye. Veux-tu revenir à l'exemple de Nouvelle-Beauce où c'est essentiellement les municipalités où la piste passe qui paient?
Non.
Si tu dis que tu as un équipement régional, tu payes selon normalement ta richesse foncière. Parce qu'il y a des municipalités qui payent la facture, Germain, il faut que tu te le rappelles, puis qui ne sont pas traversées du tout. Moi, je me rappelle en 2004, quand on a lancé le projet, il y a des municipalités qui ont accepté de payer, puis en disant même si ça ne passe pas chez nous, là.
Ouais, c'est ça.
Puis c'est pour ça que je n'ai jamais chialé sur l'entretien non plus. Là. Regarde, ça, c'est alors la quatre parts. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être un montant qui devrait venir du FDT parce que c'est un équipement régional. C'est dans ce sens-là.
Ah, c'est OK. Dans ce sens-là, je te suis, Germain. Là. Il n'y a aucun problème.
C'est pour ça là, que quand, là, on ne décide pas qu'il vient du FDT, donc c'est pour ça que je suis contre.
Bon, c'est un peu la décision pas prise du FDT, quand on va prendre la décision du FDT, ce sera nous autres de dire qu'on impute un montant pour les pistes cyclables.
C'est ça. À ce moment-là, je voterai pour.
Moi, je pense qu'on va trop loin, là. Là, moi, je pense qu'il faut s'arrêter juste sur le principe. Là. On est-tu d'accord avec un règlement d'emprunt pour effectuer des travaux? Après oui. Ça, Clément l'a dit tantôt. Mais qu'il vienne le temps de faire les travaux, on décidera ce qu'on fait comme travaux. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas aller trop loin. Là. Qui va payer ça? On va avoir à se questionner là-dessus. Je suis bien d'accord. Mais le FDT, là, il y a un moment donné, il n'y aura plus de fonds. Donc, il va falloir. C'est pour ça qu'il va falloir. Il faut faire une analyse du portrait dans son ensemble. Là.
Puis des projets qui sont soumis au FDT. Là.
Est-ce qu'on peut finir le vote? Est-ce que le vote est fini?
Bien là, il y a Germain et Pascal. Est-ce que Germain, tu maintiens ton opposition? C'est bon. Donc, le projet est adopté majoritairement.
Est-ce que ça va être inscrit, monsieur le préfet? Est-ce que ça va être inscrit dans la résolution qu'on demande à notre firme d'ingénieurs à la MRC? De nous produire le plus rapidement possible.
On pourrait faire une résolution à part parce que là, on a adopté un projet de règlement.
Parfait.
Alors, allons-y avec une résolution demandant au service d'ingénierie de nous préparer un plan de gestion de cet actif-là. C'est-tu correct?
Dans les plus brefs délais, je le propose.
Une seconde.
Hein? Pour dire réellement ce qu'on veut, là.
Oui.
Il faut être plus précis que ça, là. C'est, franchement, ça attend encore une réseau omnibus là, qui ne veut rien dire. Là. Je veux dire, tant qu'à ça, attendons au mois de juin, puis on te présentera, on ne sera pas trop tard, mais là, c'est go, 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 on fait une réseau sur le bord là, avec deux chips puis deux beignes. Là. C'est pas sérieux. Ça, là.
On n'est peut-être pas plus au beignes, mais je suis d'accord avec toi de dire qu'on peut l'emmener en juin. Là.
Ah oui, il faut prendre le temps de dire ce qu'on veut. Là.
C'est bon.
Parce que là, on est tout le projet, on n'est pas sur l'adoption.
C'est ça.
Au mois de juin, on amènera la résolution.
On reviendrait avec un projet de résolution.
C'est ça. C'est un projet de règlement qui va être adopté en juin. Mais de toute façon, on n'aura pas le plan d'actif en juin parce qu'on va préciser nos intentions par rapport au plan de gestion en juin. C'est ce qu'on doit décoder parce que vous voulez une résolution qui soit claire sur les engagements qu'on va demander à notre service d'inspection, d'ingénierie, je veux dire.
C'est ça.
C'est ça.
Adopté. On passe au FDT, projets locaux. Annick?
FDT, projets locaux. Donc, il y a deux projets là, qui ont été déposés. Un par la municipalité de Saint-Anselme en lien avec les achats de modules de jeu et la municipalité de Saint-Charles en lien avec le réaménagement du parc Dillon. Alors, j'ai besoin d'une résolution là, pour confirmer ces deux projets-là.
Éric propose.
Seconde, David.
Je peux construire le dernier point, dans le fond. On n'avait pas de point au niveau de sécurité incendie, pas de point au niveau de dossier, et j'avais un point que j'avais déposé à titre informatif. Là, c'était en lien avec le bilan là, du transport collectif adapté interurbain là, que j'ai transmis, qui sera transmis au ministère des Transports là, pour la demande de subvention pour l'année prochaine. Donc, c'était à titre informatif. Si jamais vous avez, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce document-là?
Pas de questions?
On va-tu pouvoir l'avoir, Annick, ça? Oui.
Imagine. Il était dans l'envoi, Gilles.
Il était dans l'envoi, parce que moi, il manquait des documents. C'est pas grave. C'est beau.
Annick, juste une petite question. Tu sais, quand tu regardes le trajet là, avec les heures, là, mettons, là, tu dis, mettons, comme tu n'as pas mis la caisse comme, mettons, qui arrêtait à Saint-Léon. Là.
Ah, c'est... Oui, c'est vrai. J'ai une coquille. C'est les arrêts qui ont été ajoutés. C'est vrai, Bernard. Merci de me le dire. J'ai une petite coquille dans mon document.
Oui, ben j'aimerais ça qu'on ajoute la caisse, mais dans l'ancienne caisse.
Oui, parce que là, on arrête présentement l'ancienne caisse. Hein?
Oui,
je vais l'ajouter.
OK.
Donc, toute autre question pour supplémentaire sur ce rapport-là, vous pouvez contacter Annick ou Marjolaine. Il n'y a pas de point dans Varia, donc on serait rendu à 10h45 à la levée de la rencontre.
Éric propose.
Bonsoir. Je déclare la rencontre terminée. Bonsoir et merci tout le monde. À une prochaine rencontre, on va se rendre à 11 heures. Certain.
On est capable. Ensemble, on est capable. On peut se donner des trucs.
Ah ouais, la première, on a passé une heure. Là, on est rendu, on prend de l'expérience. Alors, merci tout le monde.
Au revoir. Et ça a été, beaucoup, ça a été beaucoup mieux à soir, par exemple, avec Zoom que Workplace. Là.
Le son, puis...
Le son, puis l'image, tu sais, c'était beaucoup mieux. Il y a juste, quand vous parlez, des fois, si vous êtes plus proche de l'écran, on vous entend mieux.